Médias Sorare. Médias Sorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.
Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare. Toujours très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition, la 39e du podcast Médias Sorare. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Médias Sorare, c'est un site d'information indépendant sur lequel vous pouvez retrouver des actualités, des analyses, des conseils et une rubrique coaching. Alors, lors du dernier épisode, j'ai pu accueillir Emilien, alias Neylim, manager spécialisé dans la MLS et la Chinese Super League, qui nous a expliqué entre autres son changement de stratégie. Et aujourd'hui, j'accueille Quentin, alias QTN11, mon troisième invité belge, qui, comme Marie LB, est un grand spécialiste de la Pro League. Salut Quentin.
Salut Mehdi, la forme?
Ah, écoute, toujours, et en plus, j'ai la chance d'avoir un compatriote belge.
Exactement.
Voilà, le troisième invité belge, il y a eu Thomas qui était le tout premier épisode, il y a eu Marie, la grande spécialiste de la Pro League, et puis voilà, toi, Quentin, très content,
très
manager
content,
très actif, créateur de contenu,
ouais,
Twitter,
on essaye d'être tout. Un maximum, Twitter, Twitch en live, Instagram un peu, même si je t'avoue que c'est beaucoup plus dur de mettre du contenu sonore sur Insta, parce qu'il faut toujours des visuels et tout, alors sur Twitter le texte suffit, donc on essaye d'être présent au maximum, pas toujours facile avec le boulot et la vie privée, mais on essaye.
Tout à fait. Et manager qui a été fort sollicité quand j'avais fait une demande à la communauté, quels sont les managers que vous voudriez avoir sur le podcast, et tu figurais aussi parmi le top, je veux dire le top 5, si pas maximum le top 10, mais je pense que c'était le top 5. Et donc très content de t'avoir. On va évidemment parler Pro League, qui est ton sujet de prédilection, mais avant d'attaquer Sorare et tes débuts, etc., est-ce que tu pourrais te présenter?
Oui, bien sûr. Hein. Alors, je m'appelle Quentin, comme vous l'entendez, avec le pseudo QTN. Je suis belge, on est les meilleurs, même si on nous dit toujours avec les Français cette Coupe du Monde, mais ça, il faut l'oublier, c'est passé, on a pas du tout le seum. J'habite près de Nivelles, donc c'est le côté Brabant-Wallon, un peu vers le centre de la Belgique, pour ceux qui connaissent pas. J'ai deux boulots dans la vie, donc beaucoup, j'ai un emploi du temps très chargé. Je suis consultant chez Unibet, donc Unibet, je présume tout le monde connaît les paris sportifs, et je suis sales advisor pour Apple également, et là aussi, c'est en temps plein. Donc ça demande aussi beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Je sais pas, t'as donné ton âge?
Ah ouais, j'ai 29 ans.
Ok, ouais. quasiment 39. Et puis près de Nivelles, on est presque voisins. On a je pense une quinzaine de minutes en voiture l'un de l'autre.
Ouais, on s'en parlait en off l'autre jour. Je savais pas qu'on était aussi proches.
Ouais, c'est ça quoi. On ira voir un match de foot.
Avec plaisir.
C'est quatre. On en avait parlé. Et donc Unibet, c'est vrai que sur ton compte Twitter, j'ai vu pas mal. J'ai vu aussi à un moment un tweet où tu étais sur un plateau, je me rappelle qu'il y avait le président de Charleroi à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais exactement chez Unibet? Parce que j'ai vu aussi que tu avais une grosse communauté quand même. Tu as énormément de followers. J'ai vu également dans ta bio que tu as un passé de joueur e-sport professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus?
Ouais, alors exactement. Alors pour parler d'Unibet, je suis consultant en paris sportif. C'est-à-dire que tous les jours, Unibet francophone et néerlandophone, on a deux pôles en Belgique. On donne des pronos dans la communauté Facebook. Donc Unibet a créé son groupe Facebook privé, bien entendu, parce que c'est énormément réglementé pour pouvoir exister sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même des conseils d'argent qu'on donne pour la communauté. Donc on a notre groupe où là tous les jours, en fonction de la carte, bien entendu, je donne mes conseils pour la commu, et je tourne une fois par semaine à Anvers, donc au siège d'Unibet en Belgique. Je tourne une émission où il y a le betting show, et donc là c'est les conseils du week-end, et je dirais une fois toutes les 2-3 semaines aussi. En plus de ça, je fais deux émissions parce qu'il y a le Clubhouse. Le Clubhouse, là c'est avec le journaliste Sacha Tavolieri, qui est quand même assez connu en Belgique, mais aussi en France, qui travaille sur l'équipe et chez RMC, et un invité, donc là notamment, là il y a eu Mehdi Bayat, on a eu l'avocat de Roberto Martinez pendant la Coupe du Monde, on a eu des anciens coachs, des anciens joueurs, des joueurs actifs, et donc là on tourne un Clubhouse, et là c'est une émission de plus ou moins 40 minutes où on débat sur trois thèmes, sur l'actualité et tout, et quand c'est au niveau du football, c'est toujours un grand régal.
Et quoi, donc vous parlez de l'actualité, vous parlez de quoi encore? Est-ce que vous touchez un peu aux pronostics aussi avec ces invités? Je t'avoue que j'ai jamais regardé. Donc c'est pour ça que je posais ces questions.
Avec le Clubhouse, oui, là, c'est plus je veux dire actualité que paris sportif. Il y a toujours une page paris sportif, bien entendu, parce que c'est Unibet. Donc ça, on a un expert qui est à côté, qui est pas sur le plateau, mais enfin qui est pas dans le fauteuil, on va dire, dans le cadre principal, qui est juste à côté et qui là donne genre deux ou trois conseils sur l'émission. Mais sinon, c'est des trucs d'actualité. Donc par exemple, les dernières, c'est sur la Coupe du Monde. On va parler de la Coupe du Monde. si c'est soit avant les playoffs, bah, on en a fait une ici avec notamment avec Medibet, le président de Charleroi. C'était pour parler des playoffs, qui sera champion. On parlait du coup bien entendu d'un thème avec l'invité. Donc là, c'était vu que c'était Mehdi Bayat. On parlait du Sporting Charleroi. Est-ce que la saison était réussie ou un échec pour lui notamment. Donc c'est vraiment cool et c'est toujours agréable de parler de football. Moi, comme ça, je pourrais parler pendant 3 heures comme si j'étais dans un bar, alors qu'on parle avec des personnalités du football belge. Donc c'est toujours top quoi.
Et donc ton rôle de consultant, c'est quoi? C'est conseiller quoi des matchs? Finalement, t'es consultant avec, tu donnes quelques, je vais dire, pronostics.
C'est ça, exactement.
Qui servent aux clients, mais donc. Et je présume que si chaque fois tu as raison, Unibet n'est pas très content de ton boss, ton boulot, non?
C'était justement, parce que là, c'est déjà la 4e saison que je travaille comme ça en tant que consultant pour Unibet. Et au début, la première saison, je les ai interpellés. Je leur ai dit, ouais, mais comment vous faites? Parce que moi, mon but, c'est de gagner. Et Unibet veut que j'ai aussi une image où je dois avoir un taux de réussite assez important. Et je leur dis, mais alors, enfin, tu vois, les gens qui parient sont en négatif et ils diront toujours un truc. Et c'est vrai ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les gens, beaucoup de parieurs, le plus important, et ça c'est les gens comprennent pas, c'est la gestion de la bankroll. Ça c'est un autre débat, et donc c'est la gestion de son argent et son capital qui est très important, et ils vont suivre mes conseils. Ils gagneront pas toujours bien entendu, parce que je suis pas parfait, sinon je travaillerai pas chez Unibet, je serais millionnaire et je vivrais sur mon île, tu vois. Mais avec mes conseils, après ce qu'ils vont faire, ils vont toujours avoir envie de jouer, tu vois. Et il faut pas jouer, pour moi c'est mon dicton préféré dans les paris sportifs, c'est jouer pour gagner et pas jouer pour jouer. Et les gens, ils vont gagner, ils vont dire oh ben ouais, j'ai gagné, je vais encore jouer. Et c'est avec leurs conseils ou c'est avec leurs pronos qu'ils vont faire, je veux dire, dans la hâte, la précipitation, que là ils perdront leur argent, tu vois. C'est ça que c'est très important, la gestion très importante.
Ouais, je sais plus, c'était un sujet justement, gestion de la bankroll. Je me rappelle plus de l'invité, mais ça a été un mot, une expression qui a été sortie aussi lors d'un podcast, de bien gérer sa bankroll aussi pour Sora. Donc exactement. Tu fais ça depuis 4 ans, et comment est-ce que t'es arrivé là-dedans?
J'étais influenceur, j'aime pas trop le mot influenceur, mais j'étais plus créateur de contenu, on va dire, dans les paris sportifs. Donc j'étais à l'UNIF à Louvain-la-Neuve, que tu connais sûrement. Bien sûr. J'avais mon petit studio dans ma petite chambre, donc j'avais du temps, et je faisais mes pronos pour moi. Et puis mes potes, ils disaient toujours ouais, tu paries quoi. Donc j'ai créé ma page Facebook. Au début, j'avais 2 likes, c'était genre mon père et un pote qui mettaient des likes. Ça, c'était vraiment parti de là.
Pour te soutenir.
Ah ouais, vraiment ça. Mais j'ai fait ça petit à petit, et je suis monté à plus de 18 000 abonnés. Puis après Facebook, qui est vraiment contre les paris sportifs et tout ça, c'est vraiment réglementé d'une manière très très étrange. Et ils ont supprimé ma page. Donc après là, j'ai eu la force quand même de revenir avec 0 abonné. Donc j'ai recréé une page. Puis j'ai créé un compte. Il y avait Snapchat, Twitter, il y avait Instagram. J'avais créé mon site internet moi aussi tout seul. Donc j'étais créé comme ça, et puis j'avais vu un tweet de Sacha Tavolieri, notamment le journaliste, qui mettait ouais, ceux qui s'y connaissent en paris sportif et en football belge, envoyez-moi un mail à cette adresse là donc j'envoie un mail, et il fallait se filmer pendant 10 minutes, analyser un match de foot et expliquer son analyse et tout. Et il y a eu plus de 200 candidatures, et il n'y en a que 2 qui ont été sélectionnés, et j'ai eu la chance d'être dans les 2 sélectionnés.
Ok, super, donc c'est bien. Et donc, oui, Sacha Tavolieri, il est, moi je le suis aussi sur Twitter, parce qu'il y a souvent des infos importantes. Il est d'origine italienne, non?
Exactement, ouais.
Parce qu'il a quand même pas mal d'infos aussi, je trouve, sur les des joueurs italien, sur le championnat italien, et puis évidemment sur la Pro League aussi.
Sur la Pro League aussi, ouais, et notamment la région de Liège, parce qu'il vient de Liège, mais c'est l'avantage, c'est qu'en plus d'être un collègue, c'est devenu un ami, donc c'est toujours top.
Donc c'est bien, donc t'as pas mal d'inside info, voilà.
Exactement.
ça peut servir surtout dans Sora. Et alors, tout à l'heure, je disais aussi que dans ta bio, j'avais vu que t'étais un ancien joueur e-sport pro.
Exactement, ouais, et donc j'ai l'amour du football partout. Depuis tout petit, j'ai joué à la console de jeu. On a joué à PES, on a joué à FIFA. Puis après, du coup, on se donne à fond. J'avais quand même un bon niveau. J'ai représenté l'UC Louvain, notamment au tournoi interuniversitaire, où il y avait le joueur d'Anderlecht, le joueur de Charleroi et le joueur de Zult à ce moment-là. J'ai perdu en finale de ce tournoi-là, alors que là, je jouais pour moi et tout, lambda. J'ai gagné aussi des tournois. On sait que les tournois chez nous en Belgique, les tournois MediaMarkt, il y a quand même avec pas mal d'engouement là-dessus. J'ai joué aussi des tournois MediaMarkt que j'ai gagné. Et là, j'ai été contacté par le club de Bruges pour jouer la saison. C'était en 2020, donc c'était il y a 2 ans. C'était à FIFA il y a 2 ans. Et c'était vraiment une belle expérience. C'est beaucoup de pression, c'est un autre monde et tout. Mais ouais, j'ai eu cette opportunité de jouer pendant un an le championnat de Belgique de FIFA. C'était quand même vachement sympa et ça fait une belle expérience.
Et donc, tu représentais Bruges. Et vous êtes combien de joueurs comme ça? Tu es le seul à représenter le club de Bruges ou bien vous êtes plusieurs?
Ouais, à ce moment-là, j'étais le seul à représenter le club de Bruges. Maintenant, je suis suis plus trop, je t'avoue, la scène FIFA, parce que j'ai vraiment mis ça de côté. Mais maintenant, je sais qu'ils ont un joueur principal avec un backup qui est là, notamment soit pour les entraînements, soit pour si l'autre est absent et tout. Mais oui, j'étais le seul joueur à représenter le club de Bruges. J'ai fait le championnat de Belgique et donc chaque club avait avait son propre joueur.
Ok. Et quoi? Et vous jouiez les matchs suivant le calendrier?
Exactement.
Donc si c'était Bruges Anderlecht en vrai, tu jouais contre le représentant d'Anderlecht, quoi.
C'est ça. Mais pendant les retours, donc on a commencé ça au mois de décembre. Dès que le deuxième tour, on va dire au vrai foot, commençait, eh ben dès que le deuxième tour commençait, nous on le faisait sur la console et on suivait le calendrier. Donc si Anderlecht jouait contre Bruges, ben après je jouais contre le joueur e-sport d'Anderlecht.
Et comment ça se passe brièvement?
Alors
vous jouez où? Vous êtes dans une pièce spéciale ou vous êtes dans un studio? Comment est-ce que ça se passe?
Ça dépend de... Moi je t'ai vu que j'ai eu, pas entre guillemets la malchance, mais que c'était pendant le Covid, tu vois, c'était l'année du Covid. Donc moi au début, il y en a qui jouaient de leur chambre, il y en a qui jouaient. Moi j'avais le club de Bruges, c'est quand même un des plus grands clubs de Belgique, donc le club de Bruges qui m'avait mis sa propre salle, j'avais ma propre salle dans le stade, donc ça c'était vachement cool.
Génial.
Maintenant, je t'avoue que faire pour un match de 20 minutes, faire 1h15, 1h30 de route, aller et puis encore retour pour jouer un match de 20 minutes.
Ah ouais, c'est clair.
C'était pas l'idéal.
Ah ouais, c'est 20 minutes. Ah ouais. C'est vraiment rapide, quoi.
Ah ouais, ouais. Maintenant, il y avait aussi les problèmes du début, parce que c'était vraiment la première grosse année. Enfin, il y avait eu avant, mais c'était vraiment une année où ils ont vraiment mis le paquet niveau, on va dire, infrastructure et tout, pour que ça se déroule bien. Mais la Pro League avait des fois des retards dans les horaires au début, c'était compliqué. On en est là, donc je faisais 1h20 de route, j'attendais 2h, je jouais 20 minutes, puis après je devais refaire 1h20. Donc après, Bruges m'a donné tout le setup et je faisais les matchs depuis chez moi, quoi.
Et donc, par exemple, si tu jouais contre Anderlecht, ton adversaire, lui, se trouvait soit chez lui ou soit dans le stade.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je l'avais pas en face de moi. Je veux dire, c'était pas comme une LAN où là, on fait un tournoi et on joue tous l'un contre l'autre sur le même écran ou un écran juste en face. Donc là, lui était chez lui, il pouvait se trouver à des centaines de kilomètres de moi, par exemple.
Et c'était rémunéré, évidemment.
Ouais, ben ça, attention que c'était pas. Ça dépendait du club. Moi, j'étais rémunéré au club de Bruges, mais je sais qu'il y en a beaucoup, même du championnat de Belgique, qui le faisaient bénévolement. Et justement, ça a posé souci l'année où je suis parti, parce que je sais que dans d'autres clubs, il y en a qui étaient rémunérés, mais en fait, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment d'avenir là-dessus, surtout en Belgique. C'est mal encadré, c'est mal géré et tout, de manière générale. Donc, je sais qu'il y avait des clubs qui voulaient licencier leurs joueurs parce qu'il y avait des joueurs qui postulaient et qui voulaient bien le faire bénévolement, tu vois. Donc, c'était vraiment un peu un monde compliqué, je trouve.
Ah, ok. Et donc, tu as fait ça un an?
J'ai fait ça un an, exactement, ouais.
Et tu as terminé quantième?
Ah, alors là, c'est vraiment la pire des illusions, parce que c'était ma première, enfin, c'était mon seul truc, je veux dire, au niveau. Et tout le monde, je veux dire, je suis arrivé, les autres, ils avaient déjà de l'expérience, ils avaient déjà fait le championnat de Belgique. Tout le monde me mettait genre dernier ou avant-dernier. C'était le top 8 pour les playoffs. J'étais dans le top 8 toute la saison. Et à la dernière journée du championnat, j'ai fini 9e en encaissant à la 93e. Donc pour les Français, à la 90+3. Le goal qui m'élimine des playoffs. Ouais, sans ce goal-là encaissé, j'étais dans les playoffs. Donc ouais, là, c'était. Tout le monde m'a dit, t'as fait une belle saison et tout. T'as été dans les playoffs tout le temps. Honnêtement, on te voyait pas là parce que tu venais d'arriver. Mais je t'avoue que j'ai quand même ce goût amer pendant très longtemps d'être sorti des playoffs au dernier moment, quoi.
Bon, bah écoute, c'est chouette. C'est génial comme expérience. Et donc, il y avait pas mal de personnes aussi. Tu faisais du Twitch aussi par rapport à ça ou pas trop?
Mais c'est de là que vient essentiellement ma communauté Twitter. Hein. C'est du monde de FIFA où je faisais énormément de création de contenu sur Twitter. Et je faisais aussi des live Twitch pour les Fut Champions, notamment le week-end. Je faisais des live Twitch parce que j'ai fait de l'achat-revente. Donc, ouais, c'est vraiment pour des conseils achat-revente et tout que ma commu est montée sur Twitter.
Et donc, pour revenir et terminer la parenthèse Unibet, tu consultant, c'est vraiment spécialisé championnat belge?
Spécialisé football.
Aussi à d'autres. Ah, football, donc, ouais, vraiment football. En général, quoi.
Ouais, football en général, donc je parie, je peux parier par exemple ici, j'ai tourné une émission aujourd'hui, et bien, j'ai donné des conseils sur la G-League, tu vois, parce que avec Sorare, et même avant Sorare, je suivais déjà la G-League pour les paris sportifs, donc ouais, ça m'arrive de donner des conseils de pronos sur la G-League, sur la MLS, sur la K-League, sur, ça peut être un championnat bulgare, et tout, tu vois.
Et mais tu bien peux sûr, parier, toi, belge, en tant que consultant Unibet?
Bien sûr, ouais, ouais, okay. Je peux parier, mais je peux parier que sur Unibet, ce qui est logique pour la concurrence, ouais. Et tout, quoi.
Ok, bah écoute, belle présentation, ça, Quentin, donc on poids du temps bien chargé. Est-ce que tu as encore de la place pour des passions là-dedans? Oui, certainement.
Ben oui, hein, la passion, notamment le football. Hein, ça a toujours été le football depuis tout petit. Ici, j'ai joué au foot. J'ai arrêté l'année dernière. Donc ça va faire un an que j'ai arrêté le foot, parce que notamment avec l'emploi du temps, de boulot, plus des projets et tout à côté, c'était pas évident. Je trouve que ça me mangeait énormément de temps, 2 entraînements semaine plus un match. Donc après 25 ans de football, j'ai mis stop. Et donc quand j'étais jeune, les jeux vidéo, maintenant j'ai remplacé ça par le travail, notamment, parce que c'est toujours. Toi, j'ai pas l'impression de travailler en allant chez Unibet alors que je travaille. Toi, c'est faire de sa passion son travail. Pour moi, c'est le but ultime. Puis j'ai Sorare qui me demande pas mal de temps aussi, et notamment j'essaie d'aller voir un maximum de matchs dès que j'ai l'opportunité ou quoi dans les stades en Belgique, parce que j'adore le foot, j'adore le championnat belge. Donc si je pouvais y aller aller, je veux dire, deux fois par week-end. J'irai deux fois par week-end, si c'était possible, mais malheureusement...
C'est possible, hein.
Ouais, mais alors après, madame et tout, ça va pas être possible. Voilà, voilà. Avec, c'est logique, quoi.
Ça, c'est autre chose.
Ouais, c'est autre chose.
Ouais, tout à fait.
Et sinon, voyager, découvrir de nouvelles choses. J'aime bien profiter de la vie. Donc, dès que j'ai un week-end ou un moment de possible, si je peux aller à Paris, à Disneyland, à Disney, si je peux aller, je sais pas moi, quelque part, visiter quelque part, faire un moment, quoi, avec ma famille, mes proches, madame ou quoi, c'est toujours cool, quoi.
Et quand tu dis Disneyland Paris, c'est pas le Parc des Princes, quoi. C'est vraiment, ouais, le vrai Disney, quoi.
Exactement.
Ou bien t'essayes de faire les deux un jour là et l'autre jour le...
Non, j'ai jamais fait ça. Elle m'a offert ici des places pour aller voir, je crois que j'ai encore un an et demi, pour aller voir avec l'hôtel et tout au Vélodrome à Marseille. Et elle m'a dit, ouais, on ira ensemble et tout. Donc j'essayerai d'avoir les places pour aller voir OMPSG là-bas. Je pense que ça peut être vachement, vachement cool niveau ambiance, niveau... Puis même visiter la ville, prendre un petit week-end de 3-4 jours ou quoi, ça peut être sympa.
Écoute, c'est magnifique, ça. C'est ta compagne qui t'achète les places, ouais, ça c'est magnifique.
Ça c'est beau.
c'est très très beau. Bah écoute, c'est cool. Je voulais savoir quand tu joues au foot, t'as joué quoi, à niveau gentil ou bien t'as joué à un bon niveau?
Bah, toi qui connais sûrement en Belgique, au début je jouais à Villers-la-Ville, puis après là j'ai été champion en minime, donc la première année sur le grand terrain. J'ai le RJ Wavre que tu connais sûrement qui m'a demandé. Donc là j'ai réfléchi, j'ai été faire le match test et tout. Ils ont voulu que j'aille là-bas, donc j'ai été là-bas. J'ai joué notamment contre Christian Benteke, contre le frère de Lukaku et tout. J'ai joué contre Anderlecht, Standard, Charleroi et tout.
Ah ouais, sympa.
Ouais, c'est sympa. Mais là, je me suis blessé un an. J'ai eu l'os gauche-latéral, donc c'est trop d'activité physique et croissance en même temps. Mm-hmm. Donc une boule en dessous des deux genoux. Donc là, j'arrive en première secondaire. Donc je crois que c'est le lycée qu'ils appellent ça en France. Première année au lycée, ou je sais pas comment ils appellent ça.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est le 12 ans.
Ouais, c'est ça. J'arrivais là. Donc c'était la cantine avec les frites, les crasses et tout. Donc j'ai pris 10 kilos, tu vois, mais à cet âge-là, c'est fatal.
Ah, carrément.
Ouais, ouais. Parce que plus de sport, en fait, je pouvais même plus courir dans la rue. Si on avec le truc que j'avais, je devais mettre des patchs tous les jours sur mon genou.
Ouais, c'est une maladie malheureusement assez commune chez les jeunes.
Ouais, il y avait un tiers de l'équipe qui l'avait, où on était. Parce qu'en fait, on jouait deux matchs le week-end, des fois même deux matchs, deux fois le même jour, parce qu'ils devaient créer un certain nombre d'équipes. Et donc, on jouait contre Anderlecht, et après, on devait se dépêcher pour prendre nos affaires, et on devait aller aider les régionaux parce qu'ils étaient passés. Et donc, on jouait deux matchs la même après-midi ou quoi. Et c'est normal que notre corps, il a pas suivi, tu vois.
Ouais.
Bon. Et puis après, du coup, je suis retourné à mon club où j'avais été champion, qui a dit, reviens chez nous et tout. Donc, parce que je m'entendais pas non plus trop avec le coach là-bas. Et je suis retourné de là. J'ai encore été champion dans les dernières années de jeunes. Puis je suis monté assez tôt en équipe première. Là, à un moment, ça allait bien. Je me suis fait le ménisque à un genou. Puis après, je suis revenu de blessure. Ça allait de nouveau bien. Là, je me suis fait la pire blessure que j'ai jamais eue. Enfin, j'ai eu une rupture totale tendon d'Achille.
Ouh là là,
ouais, donc là, en fait, moi, j'ai pas été épargné, quoi. Ouais, c'est un an. Puis après, j'ai eu l'autre ménisque, et là, le chirurgien m'a dit, en fait, t'as une fissure dans le cartilage aussi, et t'as perdu un tiers de résistance de tes ligaments croisés. Donc moi, je te conseille d'arrêter. Et j'ai continué ma petite dose, quoi.
Ok, ouais, pour le fun, parce que t'avais encore cette tension, cette passion, c'est ça.
Exactement.
Et là, dernièrement, rupture talon d'Achille, c'est qui, ouais, c'est Kimpembe, hein, je pense qu'il a eu. Hein. Je sais pas si c'est la rupture totale.
Je sais que Christian Benteke l'a eu. Comme belge, Axel Witsel l'a eu aussi, mais c'est possible que ce soit Benteke l'a eu aussi, c'est possible.
Kimpembe.
Kimpembe, ouais.
Ouais. Ça se termine de la même manière, mais ouais. Pas tout à fait la même chose.
Non, pas du tout.
Ok, écoute, super. Merci pour cette belle présentation, Quentin. Bon, on va aborder le sujet principal, Sora. Tout d'abord, comment est-ce que tu as entendu parler de Sora? Parce que je regarde ta date d'inscription, quand même, c'est le 10 mars 2022. Donc, t'as mis quand même un peu de temps. Un peu plus de temps si je compare à... tu dois certainement le connaître, Fred Sora Belgium, qui, lui, travaille chez un de tes concurrents, Betclic, et lui qui s'était inscrit, si j'ai bonne mémoire, encore en 2020. Milieu 2020.
Ah,
donc
ouais.
Voilà. Comment est-ce que tu as entendu parler?
Alors, la première fois que j'ai entendu parler, j'étais à l'anniversaire d'un de mes meilleurs potes. Donc, j'ai fait un anniversaire chez lui et tout. Et j'avais deux amis, j'étais comme ça en train de me servir un verre, qui me font: ouais, Kant, pourquoi t'es pas sur Sorare, toi? Nous, on joue à Sorare et tout. Tu devrais jouer à Sorare. Est-ce que ça te correspondrait trop? Je fais: oh, je connais pas et tout. Ça fait la crypto, je connais rien en crypto. Je fais: j'essayerai plus tard, toi. Je fais: bien, on profite de la soirée, on parle pas de ça et tout. Je connais pas. Puis, la semaine d'après, à Unibet, j'ai un de mes collègues d'Unibet qui me fait: ouais, mais tu devrais jouer à Sorare, j'y joue aussi, et toi qui kiffes trop championnat belge, qui t'y connais blindé dans le foot de manière générale et tout, je suis sûr tu t'adorerais ça. Et je fais ah punaise, je fais toi aussi tu m'en parles, je fais c'est quoi ce truc. Donc je dis bah tu sais quoi, moi j'aime pas me lancer dans quelque chose que je connais pas. Je fais bah tu sais quoi, pendant une à deux semaines je vais regarder full vidéo YouTube c'est quoi Sorare, qui explique bien c'est quoi Sorare, et je vais voir et peut-être que je me lancerai, tu vois. Et du coup je me suis lancé, et du coup bah, mon collègue d'Unibet qui est devenu mon parrain sur Sorare, mais c'est comme ça que je me suis lancé, parce que moi je connaissais pas du tout et je voulais pas me lancer en fait dans quelque chose. J'avais déjà entendu parler de bruit de couloir ou quoi, mais j'avais pas pris le temps vraiment, parce que tout ce qui était crypto et tout, je connaissais pas du tout. Donc
je vois. Et donc t'avais pas du tout entendu parler avant début 22.
Pas du tout.
Ok. Mais donc voilà, tu t'es inscrit, donc si c'est correct, le 10 mars 2022.
Ça, ouais.
Explique un peu tes débuts. Parce que là, c'était mars 2022. Ouais. Là, si je me rappelle bien, on était au top du top au niveau des prix.
Ouais, mais on parle pas. Ouais, c'est vraiment le pire moment. Donc, je rentre là et il y avait encore la carte commune en rare. Donc, mon collègue d'Unibet, qui est lui toujours dans les rares et tout, il m'a toujours dit, ouais, ben, mets-toi dans les rares et tout. Puis, je regarde les prix, je fais, waouh, hey, attends, tu me fais rentrer dans un jeu. Je fais, c'est costaud ton budget quand même, toi, alors que je sais pas trop comment ça fonctionne. Puis, je dis, vas-y, je fais ça. Donc, je me lance dans les rares. Donc, je mets 5000 euros pour commencer. Et,
ouais, quand
coup,
même, hein.
Dis, ouais,
voilà.
Ouais, ouais, je mets ça. Je me dis, non, au début, je mets 1000 euros, tu vois. Je mets 1000 euros, mais après, il me dit, ouais, mais 1000 euros, tu ne seras pas faire grand chose. Je dis ok, donc je réfléchis, je me laisse deux semaines de réflexion et je fais bon, allez, ok, c'est vrai que le jeu a l'air pas mal et tout, je vais mettre 5000 euros. Donc je mets 5000 euros et là je commence et j'en reviendrai plus tard à la fin du podcast. Je sais qu'il y a les pires coups ou les pires souvenirs,
ouais.
Les coups de poisse, on va dire. Celui-là, ouais. Je te le garde parce que il est beau,
il est
et,
beau.
C'est,
okay.
Et c'est en lien avec ça. Donc celui-là, on va le garder pour la fin. Mais en tout cas, j'ai commencé et j'ai déjà été dégoûté dès le début. Mais je te laisse pour la fin.
Okay.
Donc, j'ai été dégoûté pour le début, mais après, moi j'ai une mentalité où dans tout ce que je fais, je joue pour gagner. Tu vois, je joue une part de cartes avec des potes, je vais vouloir gagner. Je vais faire un truc avec ma compagne, on va jouer un truc, je vais vouloir gagner. Je vais toujours vouloir gagner en tout. Mais là, je suis avec 5000 euros en rare, en All-Star rare, impossible de gagner quand des gars ils ont des Mbappé à 20K ou à 30K ou je sais pas combien il était à ce moment-là, mais
ouais, c'est ça.
Impossible. Donc, je dis, ouais, je vais sur les Limited. Et donc là, je vais sur les Limited, mais les Limited à ce moment-là,
Les Limited sont sortis en août 2022, donc t'as quand même tenu le cap pendant quoi? Pendant 5 mois en rare.
En août 2022 qu'ils sont sortis? Non, elles sont sorties avant.
Ouais. En août 2021, pardon.
Ouais, ils étaient déjà sortis.
Ouais, non, c'est vrai, non, c'est vrai.
Ouais, ils étaient déjà sortis, mais les prix étaient...
Je suis trompé d'une année.
Ouais, les prix étaient super chers, quoi. Donc, les prix vachement chers, c'était chaud. J'ai acheté, là, je me suis quand même battu pour essayer de faire des trucs le mieux possible, mais après, ouais, c'était compliqué, quoi. Donc voilà, c'était ça. On va résumer en ça mes débuts.
Ok. Et donc, Switch Limited, tu vends tout rare ou bien tu gardes tes cartes rares et tu remets un budget pour construire quelque chose en Limited?
La plus grosse erreur, je vends tout rare.
Ok.
La plus grosse erreur, j'aurais pas dû vendre tout ça et je suis parti du coup du côté des Limited. Et ouais, j'aime bien jouer, je voulais jouer sur pas mal de championnats, donc je faisais la Champion, je faisais la Chal, mais le problème c'est je suis arrivé en mars, donc c'est-à-dire que c'était la fin de saison des championnats européens, donc j'ai été en América, Asia et K-League de l'année dernière. Après là, j'ai découvert ça parce que je voulais jouer l'été, je me dis attends, j'ai pris goût au jeu, moi j'ai envie de jouer. C'est pas pour garder mes cartes là pendant 2 mois et pas pouvoir jouer, donc j'ai envie de jouer absolument au jeu. Je fais vas-y, c'est parti, j'achète des Cezina, j'achetais tous les goods qu'il y avait en Asia et en MLS de la saison dernière. Et là, après, je me mange des DNP par-ci, des DNP par-là. Je découvre que l'Asia, il y a des joueurs, on sait pas où ils sont. J'avais acheté un joueur, le type, il a disparu du club, on sait plus où il était. Oh là là, la galère, je me dis vivement que le championnat européen recommence. Ouais, vraiment. Et j'ai peur de revivre ça cet été, hein, quand je vois encore les DNP que j'ai mangé ici en MLS.
Et donc, là, tu commences à performer.
Mm-hmm.
On va pas parler des prix. Là, tu rajoutes un budget parce que t'avais dit j'avais.
Ouais, petit à petit, en fait, je rajoutais, en fait, vu que j'ai le prix de compétition ou quoi, et je voulais la gagne, de temps en temps, je rajoutais, ouais, clairement.
Ok. Et donc là, t'es compétitif. À partir du moment où tu construis ton pool limited.
Ah ouais, j'avais Mbappé, Neymar et tout. Hein.
Ouais.
Oh, ouais, j'avais Mbappé, Neymar. En fait, l'avantage, c'est que j'avais gardé quand même de l'argent pour acheter des Européens. Donc j'avais acheté des Neymar et tout ici au mois de mai de l'année dernière. Et après, au mois d'août, les prix, ils avaient bien flambé. J'aurais dû les vendre, malheureusement. J'aurais dû les vendre parce que les prix avaient vraiment flambé. Après, on a connu Sorare ici les derniers mois où, de l'été 2022, on va dire début 2023, les prix ont constamment diminué. Donc ça, mais ça, j'avais pas une boule de voyance, donc ça, je pouvais pas le savoir. Mais j'aurais dû vendre à ce moment-là, mais c'est plus facile à le dire après qu'avant. Quoi.
Ah ouais, non, mais c'est certain. Et là, c'est tout le monde peut le dire. Hein.
Bien
vraiment,
sûr.
Celui qui a eu ça dans la bulle de cristal, ouais, il y en a certains qui ont vendu à ce moment-là et ils ont bien fait, mais
exactement.
Beaucoup. Moi, je pense pensais, comme je l'ai déjà dit dans le podcast, moi j'y réfléchissais et j'en discutais autour de moi en disant non mais là je pense qu'il faut vendre et rentrer plus tard, mais voilà, c'est comme tu dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai pas présenté ta galerie. Aujourd'hui tu as beaucoup de cartes, hein.
Limited, j'ai beaucoup
193, bon je vais parler en belge, 193 cartes limited, 42 cartes rares et 9 cartes super rares. Donc là tu vas peut-être en parler un peu tout à l'heure parce que c'est une stratégie assez récente que tu as appliquée. T'as quand même gagné 289 rewards, 4 premières places, ce qui est quand même très très beau. T'as une galerie aujourd'hui, on sait très bien que c'est très aléatoire et que ça veut rien dire, mais bon, un peu plus de 7 ethers, donc équivalent plus ou moins de 13 000 $, et un reward winning lineup de 28,12%, qui est quand même un très très beau chiffre. C'est même assez rare. Mais tu sais, on a quasiment le même.
Ouais. Ah, c'est beau.
J'ai une dit 28. Tu sais, je te jure, je me suis dit, mais tiens, est-ce que c'est pas ma galerie? Non, non, en fait.
Non, j'ai pas ta galerie, malheureusement.
Je suis à 28,3. Donc, on est dans les 28%. Ça reste quand même très, très beau. Et donc, 289 rewards, c'est quand même énorme. Donc t'es là, tu performes, t'es content, mais en même temps tu regardes la valeur galerie qui dégringole, ou bien comment est-ce que tu réagis à ce moment-là?
Ouais, mais en fait je suis content. Le problème c'est que c'était encore l'époque des T1, T1, T2, T3. Tu gagnais une T3, elle valait quoi? Elle valait 1 euro. Ouais, c'est bien beau, mais mes cartes elles continuent à diminuer en valeur. Mais je gagne une T3 limitée d'un 1 euro, où je gagnais des T1 ou des T2 ou des stars. Mais je dirais pas une valeur, je trouvais assez incroyable. Mmh. Donc ouais, ici j'ai fait le choix petit à petit de retourner en rare, notamment pour viser les paliers des 50 dollars. Donc là c'était en All-Star, puis après ce rare a mis sa nouvelle règle où c'était plus en All-Star, c'était la cape 240. Je me dis c'est pas grave, je restais en cape 240 rare. J'ai essayé de tenter la 240 limited, et ici maintenant j'ai vraiment envie de tenter la cape 240 SR. Maintenant, j'ai changé complètement de philosophie, de manière de jeu. Maintenant, je vais vraiment essayer de viser le rendement avec les paliers, ce qui, je trouve, pour moi, est la meilleure des solutions quand on voit le prix des récompenses des cartes, sachant que des fois, on n'arrive pas à vendre sa carte. J'ai gagné des cartes que je les ai mis au floor prize et en dessous des dernières ventes pendant des semaines, et des fois, j'avais zéro offre parce que le joueur n'intéressait pas ou autre. Donc, ouais, je vais essayer vraiment maintenant de me focus à fond sur les rendements et la cape 240 et être prêt pour la rentrée, parce que je vais me spécialiser uniquement dans cape 240. 40 rares et SR en Pro League. Parce que je vais utiliser justement toutes mes connaissances, notamment pour éviter les DNP un maximum, pour utiliser l'analyse de match-up, parce que moi je fonctionne énormément sur l'analyse de match-up, on pourra en revenir plus tard ou quoi par après. Ouais. Mais je me focus énormément sur l'analyse des match-up, donc tout ce qui est analyse data et tout, notamment en lien avec mon job d'Unibet et les sites que j'utilise, et aussi viser le rendement sur un championnat que je connais et donc qui me permettra de performer plus facilement, entre guillemets, parce que en fait d'avoir plus de probabilité de toucher les 250 points, donc le palier. Donc c'est pour ça que petit à petit je vais en SR sur la Pro League.
Ok, mais uniquement donc sur la Pro League.
Uniquement Pro League.
Et dans ce changement de stratégie, donc tu as amorcé le changement à quel moment?
En fait j'ai eu énormément, et ça, mais bon, on peut pas revenir sur le passé, mais j'ai eu énormément de choix de stratégie sur ce rare, notamment des fois pas forcément de ma propre volonté, mais parce que ce rare a beaucoup changé ses règles. Parce que j'ai, à un moment, moi j'étais je suis hyper nostalgique de la spécialiste limited. C'était un chef-d'œuvre, la spécialiste limited. Ici, quand ils ont mis la cape 270, la globale spéciale cape 270,
la gold,
on se confond.
La golden cape 270, c'est ça.
C'est ça, exactement. Ouais. Mais j'ai vu, tout Twitter, ils s'enflammaient. Tout Twitter était content. Il y avait une hype incroyable sur cette compétition-là. Tout le monde disait, ouais, je la joue, je me focus dedans et tout. D'office, pas tout le monde n'allait perdre dessus. Mais voir cet engouement et voir tout le monde se focus sur une compétition et tout le monde se dire, ouais, allez, je veux la gagner et tout. Il y a des gros prix à récompenser. Ça m'a trop rappelé les bons souvenirs de la spécialiste. Ça, je trouve que ça devrait mettre ça plus souvent. Donc, ouais, j'étais à fond sur la spécialiste. Puis après, j'ai voulu passer en palier All-Star rare. Puis après, là, ils ont instauré la cape 240. Puis après, j'ai eu le Play or Sell, qui pour moi, au début, j'étais contre. Mais après, réflexion, je suis pour. C'est vraiment bien pour réguler le marché et tout.
Le Play or Sell. Ouais.
C'est ça, le Lister Play. Mais moi, avant, j'avais une stratégie qui était contre ça. Tu vois, en fait, j'avais des joueurs que je vendais, mais que j'avais plus forcément dans mon club, tu vois. Mm-hmm. Et que je vendais dans la hype et tout. Et maintenant, par contre, il y a le pire truc qu'ils ont mis, c'est la taxe, quoi.
Ouais.
Ah ouais, la taxe. Allez, c'était déjà le truc que j'ai testé le plus sur FIFA. Mais là, c'était du crédit virtuel, quoi. Ici, c'est mon propre argent et on m'impose encore les 5% sur la vente de joueurs. Alors, ça compte ma stratégie, donc je dois essayer de trouver une stratégie qui permet de contrer ça, et c'est notamment ce que je vais faire avec la cape 240 rare ISR, où j'aurai mon pool et que je vendrai beaucoup moins, je serai beaucoup moins actif sur le marché à cause de cette taxe, quoi.
Et tu crois que en te focalisant sur ces capes 240, donc les paliers, tu penses que tu vas être moins actif au niveau du marché? Bon, je présume que tu le fais déjà en cape 240 rare. T'es moins actif quand tu fais tes line-up, tu te focalises d'abord, c'est la première line-up que tu alignes, c'est ta cape,
c'est ça, exactement. Maintenant, mais avant non clairement, et maintenant dans ma stratégie ça va clairement être aussi dans ma vision de maintenant de avant j'étais plus dans ouais allez je veux performer, je veux gagner absolument tout ça, mais maintenant je vais être avant c'était plus, je veux dire, de l'amusement entre guillemets. Pendant un an je me suis amusé, mais j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des trucs avec notamment les prix qui ont chuté, comme tout le monde a perdu de l'argent avec la chute des prix. Mais j'étais plus dans cet esprit de je veux m'amuser et je veux être un compétiteur à fond. Maintenant je vais être plus dans cette idée de rendement, de rentabiliser un maximum avec les capes 240. Donc oui, la cape 240 est la première équipe que je valide maintenant sur chacune des game week, même en limited. Mais la limited je la garde, c'est pour ça notamment le nombre de cartes, parce que je la garde, parce que je veux toujours avoir, je peux pas ne pas jouer la gagne dans des compétitions, voilà. Je veux toujours avoir cette âme de compétiteur et donc je garde les limited pour ça.
C'est très logique. Et par rapport au SR, enfin moi j'ai une stratégie un peu différente parce que j'aligne en cap. En fait j'ai aussi changé de stratégie. Au début je me dis je vais me focaliser là-dessus, puis finalement ce sont les dernières teams, je pense, que je fais avec le reste. Mais ça demande quand même une certaine adaptation, parce que cap 240 évidemment, SR, bah, j'ai moins de SR, beaucoup moins de SR que de rares. Ça me demande quand même de temps en temps, je dis pas à chaque game week, mais quand même de temps en temps, de m'adapter, de devoir malheureusement vendre des cartes SR ou rare, n'importe, mais d'avoir de l'Ether dans mon wallet pour pouvoir racheter un joueur, parce que soit mes joueurs ont trop performé et donc ça rentre plus dans la cape 240, ou soit il y a l'un ou l'autre blessé toujours avec un score assez faible et il faut pouvoir le remplacer, ou sinon je ne sais pas aligner des équipes. Donc j'ai déjà été confronté à ce scénario là même à plusieurs reprises. Donc je sais pas, comme tu as beaucoup de cartes limited et quand même, mais en rare t'en as 42, moi j'en ai 30 en SR, donc c'est plus ou moins similaire. T'as jamais dû faire l'un ou l'autre achat supplémentaire pour rentrer dans ta cape 240 rare?
Non, et si j'ai commencé ça depuis la taxe petit à petit. Maintenant j'essaie d'avoir pas mal de possibilités au poste, et par contre ouais, ici sur l'América ça va être beaucoup plus compliqué parce que je m'y connais moins sur l'América. Il y aura des DNP que je serai moins évité, mais c'est pour ça en fait cette stratégie là j'ai envie de la peaufiner pour qu'elle soit prête fin juillet absolument, et que tout mon pôle de Pro League soit prêt, aussi bien au niveau des gardiens, des défenseurs, des milieux, des attaquants, que tout mes joueurs soient prêts en SR. D'office c'est plus compliqué parce qu'il y a moins d'enchères, il y a moins de, je veux dire, d'offres sur le marché secondaire. Des fois j'essaie de discuter avec des managers sur Discord, et eux ils se focalisent sur leur prix d'achat en SR, mais moi je m'essaie de me focaliser sur le prix de la valeur en rare, tu vois. Et donc c'est compliqué comme jamais d'acheter une carte en SR, mais petit à petit j'essaye de faire mon trou, quoi. Ici j'ai aligné ma première cape 240 SR le week-end dernier, malheureusement ça s'est pas passé. Maintenant je n'y attendais rien, c'est parce que le but c'est que ça soit prêt fin juillet, mais ici si je savais déjà aligné j'alignerais. Et ici ce week-end, pour la dernière journée de championnat, je sais aussi l'aligner, et je pense que ce week-end peut-être qu'elle ira le chercher, on sait jamais. Maintenant les playoffs c'est aussi plus compliqué, mais vraiment le but c'est que tout soit prêt. Et honnêtement je pense qu'avec un bon grand roster on pourra faire ça. Et après avec les paliers j'aurais plus besoin de vendre mes joueurs. Avec les paliers je pense que je pourrais améliorer, mais c'est clair que ça demande beaucoup de temps, franchement ça demande beaucoup d'analyse, les choix des joueurs aussi, surtout sachant qu'on va être dans la période mercato, donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, mais le but c'est d'être prêt fin juillet.
Ton objectif, donc pour le moment t'as 9 cartes super rares dont un gardien, et t'as fait des bons choix, hein.
Merci.
Tu as Mignolet évidemment. Bon, on va revenir tout à l'heure parce qu'évidemment le sujet de prédilection ça sera juste après, et ça sera la Pro League, et tu vas nous expliquer un peu les infos que t'as reçues en coulisses au niveau du mercato. Donc tu as un gardien, un Mignolet, et tu as comme défenseur pour le moment, on va tous les citer, t'as uniquement Denis Odoi.
J'ai uniquement Odoi qui a acheté moins de 100 €, et c'est vraiment ici, c'était pour les deux game week ici, et pourquoi pas, il a encore un an de contrat à Bruges, donc pourquoi pas, il peut encore être un backup, sachant que Bruges aura 3 compétitions l'année prochaine, donc il peut encore être mettre un cup pour moins de 100 euros, je pense que c'était quand même un coup à tenter.
Ouais. Donc en milieu de terrain, bon, t'as pris Bernier, je présume aussi parce que son prix était assez faible aussi.
Non, j'ai pris Bernier, d'un parce que son prix était très très faible, mais aussi surtout parce que Serein descend et le Sporting de Charleroi l'a acheté. C'est pas encore officiel par le club, mais c'était officiel par Mehdi Bayat, le président. Donc Charleroi l'a acheté. J'ai pu parler avec Mehdi Bayat, qui est vraiment hyper enthousiaste à propos du joueur, qui adore le joueur, qui adore le toucher de balle du joueur. Il m'a aussi dit une info, c'est que Mazou le voulait absolument dans les autres clubs où il était. Donc quand Mazou était à l'Union, il voulait Bernier. Quand Mazou était à Genk, il voulait Bernier. Donc maintenant Mazou à Charleroi, il a eu Bernier. Autant dire que je pense que Bernier il aura du temps de jeu.
Ah bah écoute, c'est une super info déjà.
Et je l'ai eu vraiment pas cher, donc...
Ouais, tout à fait. Et en milieu de terrain, bon là, t'as Yoon Seok-ong, le jeune de...
Incroyable.
De Gand, Balikwisha, de William. William Balikwisha.
Celui du Standard.
Ouais, tout à fait, du Standard. Gierkens, qui est quand même un très bon joueur aussi. Et puis en attaque, t'as Vincent Janssen, très efficace, avec Youssouf Badji, à voir ce que ça a donné, parce que c'était un peu en dents de scie cette saison. Et puis t'as fait un pari sur Yaremchuk. Tu sens qu'il va ressusciter, mais peut-être pas à Bruges. Tu le vois atterrir autre part.
Ouais, en fait, le truc c'est que j'ai fait un pari sur Yaremchuk aussi pour les deux game week ici, mais pour le futur, parce que quand tu es le transfert historique du championnat belge, que tu mets autant d'argent dans Yaremchuk, c'est 17 millions d'euros. C'est incroyable la somme que Bruges a mis.
Ouais.
T'es obligé de le faire jouer parce que s'il met une somme comme ça pour le transfert, le salaire, je pense qu'il est sûrement un des top 3 des salaires du club, si pas le top 1. Donc ils ont mis tellement d'argent qu'ils sont obligés de le faire jouer. Et je pense qu'avec un nouveau coach et tout, la dynamique et la sauce peut mieux prendre. Donc lui, si je peux le vendre avec une plus-value, je le vendrai peut-être, honnêtement. Donc là, il est listé sur le marché des transferts jusqu'à avant que je valide ma line-up. Et encore, je vais peut-être le laisser parce que maintenant que j'ai Janssen en plus, donc ce sera Janssen qui sera aligné et pas Yaremchuk de toute façon pour ce week-end. Donc il sera encore aligné. Il sera encore en vente ce week-end. Si je sais le vendre, je sais le vendre. Mais si je sais pas le vendre, honnêtement, ça me dérange pas parce que je pense qu'il y aura sûrement des coups à tenter pour lui l'année prochaine.
Et donc pour le moment, tu as 9 cartes. Quel est ton objectif? Donc combien de cartes tu vas arriver d'ici fin juillet?
Ouais. Je vais pas dire les noms parce que je sais qu'en SR c'est
je parle pas du nombre de cartes.
Ouais, mais c'est parce qu'il y a d'autres joueurs que je dois, il y a des joueurs spécifiquement que je dois acheter, mais on est tellement en concurrence en SR avec tout le monde que c'est compliqué. Mais je veux dire, comme quoi je me focus essentiellement sur Bed Office, les clubs qui vont jouer l'Europe. Donc comme ça je pourrais aligner aussi en midweek pour essayer d'avoir des paliers en plus, des paliers bonus, je vais dire ça. Mais il y aura aussi la midweek, donc je pense partir sur deux, voire peut-être un troisième gardien en SR. Donc c'est sûr que ça sera le focus 240. Mais après, si je suis aligné une All-Star ou une cape de 270 ou une Challenger en fonction du pool de rewards, en fonction de la Game Week et tout, je le ferai clairement. Mais un deuxième, voire d'office, et un deuxième gardien, voire un troisième gardien, avoir les prix, avoir les possibilités. Est-ce que je prends deux gardiens ou deux gardiens plus un troisième gardien, mais qui lui joue pas l'Europe ou quoi, ça à voir. Pour les défenseurs, oui, clairement, je vais être sur plus ou moins une liste de 5 défenseurs. Et en milieu de terrain, pareil, plus ou moins 5 milieux de terrain. Et en attaquant, ce sera 3 ou 4.
Ouais. Ok. Donc tu pars sur un pool d'une petite vingtaine de SR.
Exactement, mais qui s'améliorera constamment. Et puis aussi avec les nouveaux transferts, les nouveaux championnats, les joueurs aussi, vu que je vais aller beaucoup au stade, c'est les joueurs que je vais repérer, que j'arriverai à avoir pas cher et qui prendront de la valeur, qui monteront, qui joueront. Tout ça, ça va être beaucoup de temps, beaucoup d'analyse et beaucoup de scouting.
Et ça, c'est grâce à la vente de tes cartes ou bien non? Là, t'es dans une optique où tu réinjectes pour construire
là,
ce pool.
Ouais, là, j'ai encore un peu plus de 2000 euros dans mon wallet sur Sorare. Donc, je le garde vraiment quand je vois une bonne affaire. Donc là j'ai pas mal d'argent de stock sur ce rare et quand j'utilise, parce que j'ai vendu pas mal de cartes importantes en rare. Et donc j'ai vendu mes Mukhtar, j'ai vendu Acosta, Zela Ryan, tout ça en rare j'ai vendu parce que je veux uniquement, et c'est des joueurs que je pourrais pas aligner en cap de 140 rares, et c'est des joueurs tout simplement qui sont pas de Pro League non plus. Donc c'est okay. Vraiment
le gros focus, changement de stratégie quoi.
Exactement, ouais.
Ok, et donc là tu vas être un peu en chômage technique pendant la trêve.
Mais en SR oui, mais pas en rare. En rare, j'ai quand même des joueurs assez intéressants. J'ai du Latif Blessing en attaque. J'ai quand même un pool. J'ai quand même allé, je veux dire, 3 attaquants, je pense. 3-4 attaquants de Asia et MLS. J'ai 4-5 milieux de terrain, 4-5 défenseurs. J'ai 2-3 gardiens. Donc, je vais pouvoir quand même jouer cet été. Mais mon rendement sera beaucoup moins intéressant.
Tu vises la cape de 140 rares. Et puis, avec le reste, peut-être une All-Star ou une cape de 170. En fonction de.
Exactement.
De pas mal de paramètres.
Et, okay. Et essayer de jouer la win en limited pour rester compétitif et essayer de viser encore des top 1, quoi.
Ouais. C'est ça qui fait vibrer aussi.
Exactement.
Et dernière question par rapport à tes objectifs et ton changement de stratégie. Quand tu cherches le rendement là, est-ce que c'est un rendement qui va, donc tu vas te servir pour améliorer ta galerie, ou bien tu dis non, là c'est bon, j'ai ça, et puis avec le rendement, ben, ce que je gagne, je le retire?
Non, ça va être pour améliorer ma galerie, parce que Last Horror, je trouve, va dans une bonne direction. Avant, je pense que si j'avais fait ce choix de stratégique là il y a 8-9-10 mois, je pense que j'aurais peut-être retiré de Horror, parce que ça commençait un peu à prendre l'eau, pas prendre l'eau, mais ça commençait un peu à sentir le roussi, on va dire.
Oui.
Mais ici, vu la direction que Horror utilise, un peu les nouvelles et tout qui sortent, je trouve que ça va dans le positif. C'est pas encore, tout n'est pas encore rose, ça, on va pas se le cacher, mais je veux dire, ça, c'est mieux. Donc je pense que oui, je me permettrais d'agrandir mon pôle en SR, clairement, pour avoir plus de chances de toucher le palier des 200 $, et qui sait, un jour aller en unique, hein.
Ah bah écoute, c'est un très bel objectif. Donc là, confiant dans Horror, et donc continuer, et ce que tu gagnes, bah, ça servira à réinjecter et améliorer ta galerie au fur et à mesure. Mais je te suis, je suis aussi pourtant j'ai été critique, mais là je trouve que les choses, je l'ai mis aussi sur Twitter, que les choses évoluent dans le bon sens au niveau de la communication. Il y a évidemment, ils peuvent encore s'améliorer, il y a encore plein de choses perfectibles, mais voilà, je trouve qu'il y a moins de faux pas surtout.
Ouais.
Parce qu'il y a un moment où vraiment où ils les empilaient les uns derrière les autres, et là vraiment on va dans une bonne chose. Le wallet qui arrive bientôt, donc Fiat, euro,
hâte
dollar,
de voir ce que ça donnera, ça.
Et ensuite ils annoncent du gros marketing, donc on verra ça bien aussi. On verra bien ce que ça a donné, mais c'est vrai que les expériences aussi IRL, le fait de le mettre plus en avant, ça crée de l'engouement, parce que je présume aussi qu'il y a, enfin c'est plus que je présume, hein, il y a beaucoup de fans de football. À partir du moment où tu agites des expériences comme ça exceptionnelles que tu ne peux pas acheter autre part, comme prendre l'avion avec Milan ou des choses comme ça, forcément ça va attirer des fans de football, et puis on verra bien ce que ça donnera au niveau des prix dans le futur, mais on le voit aussi par rapport au prix, hein, les prix qui augmentent et tout. Justement, tu étais assez critique par rapport à cette règle du list or play, parce que tu t'adaptais ta galerie énormément game week par game week, parce que tu regardais les match-up, et donc ça, évidemment, ça a mis un frein à ta stratégie. Comment est-ce que tu t'adaptes par rapport à ça?
Ouais, alors ça m'a bien saoulé au début. J'ai réagi à chaud, notamment sur le réseau, quoi, mais de manière toujours, bien sûr, très très soft et très sobre. Mais j'étais déçu. Clairement, j'ai été déçu de ça, parce que clairement c'est mieux pour Horror, et je le dis maintenant, hein, après du recul, c'est vachement mieux comme ça pour Horror, pour l'équilibre des prix, l'équilibre du marché. Mais par rapport à moi, ma stratégie, moi j'achetais mes joueurs à 16h01, je les mettais en vente, tu vois. À 16h01, je les mettais en vente, et tellement, en fait, je les scoutais à l'avance, bien à l'avance. Donc, ce qui me permettait d'acheter pas dans la hype et d'acheter moins cher. Je faisais mon analyse de match-up des fois 2 semaines à l'avance, avec mes stats et tout, que je notais sur un fichier et tout, que cette équipe-là, elle a telle probabilité de marquer autant de goals, que lui a tel pourcentage de clean sheet et tout. Donc, j'achetais avant quand les prix étaient bas, ce qui me permettait de revendre des fois à 16h, même les trois quarts du temps à 16h01, ou même à 17h, 18h, 19h, moins cher que le prix qu'il est, clairement, mais des fois même divisé par 2 par rapport au prix qu'il était à 15h, mais plus cher que ce que je l'avais acheté, tu vois. Et j'avais toujours ce joueur qui me rapportait de récompenses.
Ouais.
Donc ça, c'était ma stratégie, et à un moment, j'utilisais bien, elle fonctionnait super bien et tout, et clac, au moment où j'utilisais super bien, il publie ça. Je t'avoue que j'étais dégoûté. Mais maintenant, avec le recul, clairement, quand on voit la courbe du prix, on regarde le vendredi à 16h01, mais t'as beaucoup moins de joueurs en vente, et c'est mieux,
ouais,
tu vois.
Certain. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'étais comme ça, un peu comme toi. J'avais pas toujours le temps de scouter bien à l'avance, 2 semaines à l'avance, mais disons plusieurs jours à l'avance, et je m'adaptais
en fait,
au match-up, et je revendais, et je m'en foutais d'avoir finalement de vendre un joueur à perte, parce que l'un dans l'autre,
vu qu'ils avaient une bonne perf,
voilà, comme avec les perfs, ça compensait largement, en tout cas la plupart du temps, largement la décote au moment de la revente du joueur. Ouais, et ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est pas si t'es actif quand même sur le marché là, quand tu vois les prix au niveau des enchères qui parfois sont 20%. Hier j'ai vu une carte, il y avait 2 cartes sur le marché secondaire qui étaient à 20% moins cher.
Ah ouais. Ah
ouais, et pourtant ils se battaient sur les enchères parce qu'ils veulent avoir ce petit bonus, voilà, collection, premier détenteur de cartes, etc. C'est pas une super nouvelle pour le marché secondaire, mais bon, à voir comment ça évolue. évolue avec le temps, parce que c'est vrai que s'il y a tout plein de managers ou des anciens managers qui reviennent, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, peut-être qu'ils voudront compléter aussi des collections d'il y a un an, d'il y a deux ans, donc à voir pour la suite.
Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout en limited. J'en parlais justement ici en tournage ce matin avec un collègue d'Unibet qui me faisait la réflexion, parce qu'il voulait finaliser une de ses collections, et il me dit c'est atroce, il me dit les prix des enchères, parce qu'elles sont plus hautes que les prix du marché secondaire, et en limited, pour moi, ça va continuer à s'agrandir. C'est qu'en limited, la différence des pourcents de bonus vont faire énormément la différence. Et on va plus savoir aussi faire des collections en limited qu'en rare, parce que les prix sont plus abordables. Donc bien sûr. Limited, clairement, que les prix du marché secondaire seront moins chers que les prix des enchères. Et là, c'est rare aussi bien joué pour son portefeuille.
Ouais. Mais bon, le principal, c'est que le marché se stabilise. Et quand tu vois les prix des super rares aussi, ça monte bien quand même. Hein.
Pas évident d'en acheter.
Voilà, il faut de la patience.
Ouais, exactement.
Magnifique au niveau de tes objectifs actuels et futurs. Alors maintenant, on va aborder le gros sujet. c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé, mais le gros sujet, donc évidemment la Pro League. Donc toi, tu es fan, comme tu l'as dit, de Pro League, tu assistes souvent à des matchs, etc. Mais avant d'aborder ça, j'avais quand même une question à te poser. Quels sont les outils, si tu as envie de les dévoiler ou pas, mais comme tu veux, mais les outils que tu utilises justement pour déterminer quels sont les match-ups intéressants, etc. Parce que je me rappelle que tu mettais souvent sur ton groupe Discord et Twitter ton avis, voilà, il y a telle équipe à telle probabilité de marquer autant, etc. Comment est-ce que tu détermines ça?
Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je refasse, t'as raison, j'avais pas eu beaucoup de temps, puis j'ai été quand même malade ici récemment, donc c'était pas facile, mais il faudrait que je refasse mes trades où je mettais les pourcentages de probabilité de clean sheet et les probabilités de goal marquées. Comment je fais ça? J'utilise les mêmes sites que j'utilise pour analyser les matchs au niveau du betting, donc j'utilise du SoccerStat, du FootyStat, tous les sites anglais qui ont énormément de données sur les équipes, les goals marqués, les goals encaissés, quand c'est à domicile, les formes, tout ça. Et j'utilise toutes ces panoplies de stats là. Je vais pas dire exactement quel stat j'utilise pour faire mes formules et tout, parce que sinon plus personne lira mes trades et tout le monde aura les mêmes infos. Non,
ça, tu gardes ça là. Faut quand même la cuisine interne, tu peux la garder.
Exactement. On va dire les ingrédients, mais on va pas dire la recette comment on l'a fait, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Mais ouais, honnêtement, beaucoup de sites, il y a plein de sites, même peut-être francophones, moi je t'avoue que c'est beaucoup des sites anglais que j'utilise, mais il y a sûrement des sites francophones qui donnent énormément de data et de stats et que vous pouvez utiliser, et avec les calculs vous savez voir une équipe qui va performer et tout, parce que des fois moi je regarde pas forcément les cotes de paris sportifs, mais sinon beaucoup de data et beaucoup d'analyse, beaucoup de stats.
Ok, donc il y en a beaucoup. Moi ça m'arrivait aussi, surtout dans le passé, de regarder un peu les cotes, surtout pour les championnats, je connais pas bien. Mais donc Footystat et l'autre site que tu as dit, c'est quoi?
C'est SoccerStat.
SoccerStat, ouais, écoute. Ouais. Ouais. Comme ça, les auditeurs, ils peuvent aussi faire
le
petit popote et le petit popote et leur recette avec les ingrédients que tu viens de donner.
Exactement.
Okay. Donc, on ferme la parenthèse. Maintenant, sujet de prédilection. Pro League, il y a des changements qui s'annoncent.
Incroyable.
Il y a le mercato qui s'annonce. Donc, changement au niveau du championnat la saison prochaine. Il y a des rumeurs, il y a plein de choses. Et écoute, je te laisse la parole. Je te laisse tout seul.
Alors, pour la Pro League, passage à 16 équipes pour l'année prochaine. Donc, on est à 18 cette année. Donc, on passe à 16. Il y a eu 3 relégués cette année. Donc, il y a Serein, Zulte et Ostende qui ne seront plus couverts. Donc, les joueurs là-bas seront plus couverts. Et on a un seul promu. Du coup, vu qu'on passe à une équipe en moins, et c'est le RWDM. Donc, c'est un autre club de Bruxelles. Et troisième club de Bruxelles. Ça fait 35 ans qu'il n'y a plus de 3 clubs de Bruxelles en D1. Donc ça va être beau au niveau rivalité.
Tu te rappelles du troisième club qu'il y avait il y a 35 ans?
Ouah, non, je l'ai lu en plus. Ouah,
c'est Jet.
Ah ouais, le Racing. ça remonte, hein.
Ah ouais, ouais.
Ça remonte. Ah ouais, 35 ans. Moi, je t'avoue, j'ai jamais connu ça, 3 clubs de Bruxelles. Et ça peut être chaud, ça peut être bouillant. Donc ça peut être vachement, vachement cool. Sinon, au niveau de l'Europe, pour la saison prochaine, gros changement cette année. On n'a plus le vainqueur qui est d'office dans les poules de la Ligue des Champions. Donc c'était le cas les années précédentes. Ce sera de nouveau le cas l'année d'après, donc pour la saison d'après. Donc celui qui sera champion la future saison aura directement sa place en Ligue des Champions. Donc ici le vainqueur, du coup ici lors du tournage on sait toujours pas qui c'est, parce qu'ils sont toujours serrés à 3, donc l'Union, l'Antwerp et Genk. Le vainqueur ira au dernier tour de la Ligue des Champions, le deuxième fera le deuxième tour de la Ligue des Champions, le vainqueur de la coupe qui est l'Antwerp sera le dernier tour de l'Europa. Maintenant si l'Antwerp termine premier ou deuxième, du coup l'Antwerp sera dans ses tours préliminaires de Ligue des Champions et c'est du coup le troisième qui bénéficiera de ce dernier tour de l'Europa. Le quatrième, on sait qui c'est Bruges, sera d'office dans le deuxième tour en Conference League et le cinquième des playoffs, donc le cinquième, le vainqueur des playoffs 2, c'est Gand et qui sera aussi d'office dans le deuxième tour de la Conference League. Donc ça c'est pour les places européennes.
Donc deuxième tour, c'est déjà les poules ou bien non ?
Non. Deuxième tour, t'as le deuxième tour, puis t'as le troisième tour et je crois que t'as le barrage. Hein. À voir s'il y a encore le barrage ou pas, mais ils ont au moins deux tours à faire.
Avant d'être dans les poules, quoi.
Ah, quoi ? Non. Le deuxième tour, c'est les poules, juste. Le deuxième tour, c'est les poules. Juste. Parce que j'avais vu justement les pots, une prévision des pots et qu'ils seraient tous les deux dans le pot 1. Donc ça peut être incroyable aussi au niveau des match-ups de Coupe d'Europe. Hein.
Ouais, tout à fait.
Ça peut être incroyable au niveau des match-ups de Coupe d'Europe, c'est que Bruges et Gand seraient dans le pot 1, donc ils vont jouer normalement contre trois équipes plus faibles qu'eux. Donc. Mm-hmm. Pour les CAP 240, des petits joueurs de Bruges.
Donc c'est pour ça que t'as visé Bruges et Gand dans tes
voilà,
affaires.
Voilà, je t'avoue que c'est mes deux collections qui sont déjà quasi finies en limited. C'est la collection de Bruges et la collection de Gand parce que pour moi, eux, déjà l'année prochaine en championnat, ils vont être très 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 forts. Et en plus de ça, en Coupe d'Europe, ils vont être très 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 forts. Donc laissez-moi quand même le temps de finaliser et d'acheter mes joueurs. Mais c'est le petit tuyau Bruges et Gand pour moi, ça peut être top pour la saison prochaine.
Ouais, de toute façon, il y a 10 jours entre le. Non, il y a une semaine.
Ouais, mais pour les rares et les SR, c'est
là aujourd'hui compliqué. Et la diffusion, donc t'es une semaine tranquille. Par contre, quand ça sera diffusé, évidemment, on connaîtra qui aura été champion de Belgique. Se joue d'ici deux jours. Voilà, t'as un petit coup de cœur là entre les trois.
L'Union. La vérité, l'Union, ouais, parce qu'il mérite clairement. J'ai été voir. D'ailleurs, merci à Sorar qui m'a invité pour aller voir le match Antwerp Union le week-end dernier. Mais si l'Antwerp gagnait, ils étaient champions chez eux. Donc ça faisait 75 ans. Ils n'avaient plus été champions de Division 1. Donc, franchement, il y avait une adrénaline, une ambiance incroyable. S'ils avaient été champions, ça aurait été incroyable de vivre ça. Ils gagnaient 1-0, l'Union était à 10 et l'Union a mis le petit 1-1, le petit but qui les maintient pour être champion. Ils jouent contre Bruges à domicile. Je pense qu'ils vont gagner parce que Bruges déteste Antwerp. Je pense que même le coach de Bruges
va faire jouer des tout jeunes.
Ouais. Je ne savais pas qui va faire jouer, mais honnêtement, il veut que ça soit l'Union champion. Et l'Antwerp n'a pas encore gagné à Genk. Hein. Donc, si l'Antwerp ne gagne pas, même match nul et que l'Union gagne, c'est l'Union qui est champion. Et vu ce qu'il y a eu l'année dernière déjà avec Bruges, je pense qu'il le mérite clairement, l'Union champion. Écoute, j'espère.
On l'espère. Ouais. Bon, mais ça c'était pour le fait que ça sera diffusé dans une semaine qu'on aura les réponses justement à toutes ces questions là. Donc saison pro, ça change.
Donc c'est retour des playoffs à 6 et non à 4, donc très très important. Ici on avait des playoffs à 4, donc les 4 premiers et de la 5e à la 8e place. L'année prochaine ça change, donc qui dit aussi plus de matchs, donc qui dit deux équipes dit 4 matchs en plus, donc dit plus de matchs pour Sorare, donc ça c'est intéressant. Retour des playoffs à 6 et donc du coup après c'est de la 7e à la 12e place, il y aura aussi les playoffs 2 avec du coup, encore une place européenne à prendre. Donc, on va dire que si un grand club rate un peu sa saison, entre guillemets, passe en play-off 2, cette équipe-là, pour la fin des championnats, où ça va être compliqué, il y aura pas forcément les autres championnats qui joueront. Il y aura des fois que la Belgique, par exemple, en mid-week ou quoi. Ça peut être aussi intéressant.
Mm-hmm. Et il y aura pas moins de matchs, parce qu'on passe de 18 à 16.
On passe de 18 à 16, mais on augmente les play-offs. Donc, au final.
Ça revient au même.
T'auras pas moins de matchs que l'année dernière.
Donc, il y en avait. Attends, cette année, il y en avait 34. Donc, l'année prochaine, il y en aura 30.
Ouais.
En championnat.
C'est
et
ça.
Puis ensuite, il y aura
4 matchs en plus en playoff.
Ouais, tout à fait. Donc, il faut mieux viser sur les équipes qui vont se qualifier pour les playoffs. Ou sinon, pour les autres équipes, il y a 2 matchs en moins, quoi.
C'est ça. Et ils vont faire une nouvelle réforme. Donc ça, le truc des playoffs là, ils l'avaient déjà fait dans le passé. Donc c'est revenu à une ancienne formule. Mais ici, ils vont faire un genre de mini championnat aussi pour les 4 derniers. Donc les 4 derniers auront un mini championnat où t'auras les deux moins bons qui iront en division 2. Donc imagine tu termines dernier de ton championnat de la phase classique, tu peux encore te sauver. Donc les deux derniers termineront en division 2 et le deuxième affrontera le troisième de la D2. Donc il y aura potentiellement 3 clubs de D1 qui descendront et 3 clubs de D2 qui pourront monter. Donc ça, il faut faire
là,
vraiment attention.
Donc sur les 4 bonnes équipes, donc sur les 4, il y en a
les
une qui
bonnes,
est sûre
ouais.
de sauver, il y en a
c'est
une
ça.
Qui fera le barrage et puis il y en
c'est
a
ça.
Deux qui vont tomber.
Exactement, ouais. Donc là dans les 4 derniers, si vous avez des joueurs des 4 derniers championnats belges, faut être serein. ça va être chaud.
Ah ouais, ça va vraiment être chaud. Ok, super. Donc changement important. D'autres choses ?
Pour parler de la saison pro, moi clairement je vois le club de Bruges frapper un grand coup, notamment en plus de la conférence. Je vois le club de Bruges être vraiment fort, voir le grand favori du championnat. Ils ont une enveloppe de 20 millions d'euros pour le mercato qui est énorme. Ils ont piqué l'entraîneur du Standard, donc Ronny Deila, qui est un très 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 bon coach, qui a fait un travail incroyable au Standard, qui a failli les qualifier en playoff 1 avec un groupe qui pour moi n'a même pas sa place en playoff 2, honnêtement, qui a vraiment un groupe, un effectif assez faible et qui a réussi à faire des miracles avec ce groupe. Donc, avec Bruges, avec le meilleur effectif du championnat, je pense qu'il peut faire des merveilles, à voir si la sauce prendra ou pas. T'as la Gantoise qui peut faire très mal aussi, je trouve. Au niveau, je fais vite un petit point vite fait en deux lignes de chaque club comme ça. Ouais, t'as Genk, comme ça, si jamais il y en a qui ont des joueurs, ça peut être intéressant pour eux. T'as Genk qui, pour moi, sera en difficulté l'année prochaine. On l'a déjà vu sans Onuachu en partie en janvier. Ils ont fait le choix de l'argent au lieu du choix du sportif. Ça a été compliqué. Ici, ils vont perdre énormément de joueurs cadres et intéressants. Donc, Genk, je pense que ça à voir comment ils vont recruter, honnêtement. L'Antwerp, par contre, sera très costaud l'année prochaine. S'ils ne sont pas champions cette saison, je pense que ce sera pas lever le pied, mais ils seront un peu plus sereins, un peu plus tranquilles pour la saison prochaine. Par contre, si c'est l'Union champion, l'Antwerp l'année prochaine, ça va être l'Antwerp contre Bruges, ça va être une bataille incroyable. Pour l'Union, très dur à dire. Voir si Gerhardt, le coach, restera ou pas. Il était sollicité par Bruges, mais qui au final a opté pour le coach du Standard. Donc, avec quelle équipe aussi? Parce qu'il y a des joueurs qui risquent quand même de partir. On a un Boniface. Est-ce qu'il restera? Est-ce qu'il restera pas? Il y a moins de rumeurs qu'à Orban, mais on en reviendra par après. T'as Adingra qui retourne à Brighton, t'as Tillitema, on en parlera aussi par après. Donc ça va être chaud. Anderlecht, reconstruction complète. Ils ont déjà annoncé qu'ils doivent acheter 6 à 7 titulaires, donc ça va se battre pour les playoffs 1, mais ça pourrait être en playoffs 2. Le Standard, pour moi, ça va être très compliqué. Il doit repartir de zéro, coach, effectif et tout. T'as tout le monde qui part, ça serait très très compliqué. Ce sera sûrement en playoffs 2. Le Cercle de Bruges, très compliqué. Quid de Monaco? Parce qu'à Skip, Monaco veut vendre le Cercle de Bruges. Ils ont des très bons jeunes, le Cercle de Bruges. Lesquels resteront, lesquels partiront, lesquels iront à Monaco? C'est vraiment très compliqué à voir. Westerlo qui est un promu, qui est en playoff 2, qui a fait une très belle saison pour un promu, Westerlo, faut le souligner, mais qui va perdre beaucoup de joueurs importants, notamment des Chadli qui coûtent très cher, qui est en prêt de Bajak Chehir, qui va retourner à Bajak Chehir. Chadli aimerait bien rester, le président a déjà dit que niveau finance ce serait compliqué, ils savent pas le recruter. Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Il espère, mais ça, même lui l'a dit, ça risque d'être très compliqué. De Kuyper était en prêt, il va retourner à Bruges. T'as Dorgeles qui est en prêt de Salzbourg. Donc tous les joueurs qui ont un peu performé à Westerlo cette saison partiront. Donc compliqué, le président a déjà dit que les finances c'était pas le top, donc Westerlo ça va être chaud. On a Charleroi pour moi peut toucher les playoffs 1. Ils ont pas un effectif incroyable, mais ils ont un collectif et ça c'est important. Ils ont Matsu,
coach.
Exactement, ouais, voilà. Exactement, ils ont Matsu qui est incroyable, qui fait un énorme travail. Et comme j'en ai parlé avec Mehdi Bayat ici en fin de saison, il m'a clairement dit, et il a clairement dit dans l'émission, que l'objectif est de viser les playoffs 1 pour Charleroi. Donc vu que maintenant c'est 6 équipes et plus 4, Charleroi va clairement tout faire pour être dans ces playoffs 1. Voir quel mercato ils vont faire, c'est un peu le problème je trouve de Charleroi, mais pourquoi pas. L'OHL, ça peut être pas mal. C'est toujours une équipe, pour moi, d'office, ils seront en playoff 2, mais pourquoi pas, ils pourront venir titiller quelques joueurs. Le Saint-Trompe, par contre, qui perd le deuxième meilleur buteur du championnat de la phase classique, c'est Gianni Bruno. Donc Saint-Trompe, à voir comment ils seront. Ça va être une équipe qui va flirter avec les playoffs 2 ou alors les vacances au mois de mars. T'as Malines, très bonne équipe de Steven Defour, le coach, qui a perdu la finale. Ils ont failli être européens. Ils ont perdu la finale de la Coupe contre l'Antwerp et il a pété un câble après le match. Il a clairement dit, on voit qu'on n'a pas d'attaquant. Il dit, j'ai du respect pour les attaquants qui jouent là, mais on n'a pas de finisseur, on n'a pas de buteur. Donc ils vont acheter un attaquant. Il y avait la rumeur Previac de Penn.
Ah oui, ok.
Ouais, le numéro 9 de la Bosnie qui est libre d'ailleurs de tout contrat. Donc il y avait lieu en rumeur dès la fin de saison. On n'a pas eu de nouvelles ici pour le moment. Il y a Rajanan Golan qui a dit qui s'entend bien avec Defour et qui a dit si Defour m'appelle, je réfléchirai à la question si je reviens en Belgique. Donc Rajanan Golan, même on l'aime ou on l'aime pas son caractère, sur le terrain il peut faire mal et puis il a du charisme, c'est important.
Ouais, il faut éviter qu'il fume des clubs sur le banc, quoi.
Voilà, exactement. C'est ce que je dis au niveau du joueur, c'est pas le top, mais sinon.
Mais bon, c'est pas un attaquant, donc.
C'est un milieu de terrain, ouais.
Et mais tu crois que Storm, il va... Ouais, bon, on va parler après Mercato.
Parlera après Mercato, du point de vue Mercato. Ici, j'ai bientôt fini le point de vue des clubs. Courtrai, club à vendre. Donc, Courtrai, club à vendre. Ça va être compliqué. Je pense que Courtrai va devoir se battre absolument à fond parce qu'ils vont perdre... on va en parler aussi au niveau du Mercato, mais il y a des joueurs qui peuvent perdre à Courtrai. Donc, important, très important même. Donc, ça va être compliqué. Eupen, honnêtement, je les vois descendre. Ça a été déjà cette année, ils auraient dû descendre. Tu perds le dernier match de la phase classique, 6 ou 7-0 à Bruges. Ici, ils perdent deux éléments forts qui est Previac et ils perdent Boris Lambert. Ils vont sûrement perdre Boris Lambert, le défenseur. Ils perdent aussi Peters, le milieu de terrain qui est libre de tout contrat, qui est plus au club. Donc, Eupen, ça va être compliqué. Et leur RWDM qui va monter en division 1 et qui va devoir tout faire pour se maintenir. Donc, ça, c'était vraiment le petit point pour la saison prochaine.
Magnifique. Bah, écoute, c'est super. T'as parcouru tout le monde. Après, RWDM, on verra bien. Hein, parce que s'il nous faut le coup de l'Union, on se dit, l'Union, ils sont montés, ils vont redescendre et puis. Ils sont battus presque pour le titre dès la première saison. On ne sait jamais. Il y a des joueurs à retenir. Tu connais un peu les RWDM ou pas?
Non, il y a le frère d'Eden Hazard. Il y a Kylian Hazard
qui est
RWDM.
Qui était au cercle. Je me rappelle, il y a deux ans, j'avais sa carte rare. Mais ouais, il avait été écarté du groupe. Il avait disparu. Et puis, il a ressurgi à RWDM. Et c'est vrai que ça a été un élément très important de la montée. Donc,
clairement, il a fait une bonne saison.
Intéressant.
C'est le même président qu'à Lyon. Donc, est-ce qu'il va avoir des prêts de Lyon au RWDM? Ouais. Pourquoi pas? On ne sait pas. Textor, là, moi, je ne connais pas spécialement. Donc, je ne sais pas si c'est un président qui touche facilement au cordon de la bourse ou pas. Donc, je ne sais pas s'il va mettre beaucoup d'argent ou pas pour le RWDM. Il a déjà dit qu'il voulait concurrencer Anderlecht et l'Union. Donc, je présume que c'est qu'il va quand même mettre de l'argent. Mais à voir, honnêtement.
Ok. Bon, Mercato.
Ouais, Mercato. Vite fait, le gardien. Pour moi, on en a parlé précédemment. Je dois encore en acheter. Donc, il va falloir que je me dépêche. C'est Bruges et la Gantoise. Du coup, j'ai mignolé en rare et en SR, donc vous pouvez y aller. Par contre, j'ai pas encore Paul Nardi, donc si vous pouvez attendre, ça me ferait plaisir. Mais sinon, ouais, Bruges et Gambes, les plus c'est pour moi, parce que l'avantage vraiment va être sur Mignolet. Voilà pourquoi c'était lui mon choix en 4-240 SR, parce que pour moi, il y aura pas forcément de rotation au niveau de la Coupe d'Europe, ce qu'à Gand, il pourrait avoir avec notamment Rouf, comme on l'a vu cette année, qui est un bon deuxième gardien. Donc à ce niveau-là, Bruges et Gand seront les deux plus safe au niveau du championnat pour moi. Il y a Maurice et Buté qui joueront l'Europe d'office la saison prochaine, qui peuvent être intéressants, mais attention, parce que il y a des envies d'ailleurs des deux. Buté a clairement l'objectif d'être dans le top 3 des gardiens de l'équipe nationale de France. Il a clairement dit, il est ouvert avec ça. Il y a des pistes à Villarreal pour être le gardien de Villarreal, sachant que Pepe Reina a 40 piges. Donc ça va être chaud. Est-ce que Buté partira pas? Maurice, il a 31 ans, il a aussi déjà des envies d'ailleurs. C'est le dernier moment qu'il peut être. Il a déjà fait son temps à Lyon, il était déjà avec Lyon en D2 et tout, donc il a déjà failli partir l'été dernier, donc possible méfiance. Pour Genk, il y a Van de Voort qui normalement devrait rester encore un an à Genk. Maintenant, on connaît les problèmes de gardien à Leipzig. Est-ce qu'ils vont accélérer et payer peut-être une indemnité pour que ça soit un an plus tôt? Ça, je sais pas si tu as déjà vu des infos là-dessus sur Van de Voort ou pas, toi?
Un peu, mais ça discute. Exactement. Donc à voir si effectivement ils sont prêts à payer. Sinon Gulacsi, il est bon, hein, il est bon quand il est pas blessé. Donc c'est ça. Donc écoute, à voir,
hein. Sinon, le standard Bodard,
t'aimes bien Van de Voort?
Non, pas du tout. C'est pour moi, vraiment pas. C'est le FC surcoté. Quand on dit que lui, il sera le futur, clairement, je comprends pas. Et franchement, même avec mon collègue d'Unibet, c'est exactement la même chose que moi. On comprend pas pourquoi il y a un tel engouement autour de ce gardien qui, apparemment, on dit que c'est le futur Courtois, le futur gardien avec National Belge. Je suis pas du tout d'accord. C'est le gardien qui, quand il a des arrêts à faire, il le fait très peu. Il a à Genk, il encaisse tout le temps minimum un goal. Mais comment ça sera en Bundesliga? Il s'en encaissera deux ou trois. Il va se refusiller, tu vois. Donc, moi, je trouve il est surcoté de fou. Hein. J'ai jamais acheté. Surcoté. Vraiment surcoté.
Moi, je trouve qu'il a parfois des très très bons réflexes.
Ouais, mais.
Et comme jeune gardien belge, tu t'en vois des meilleurs que lui à son âge?
Je pense que les Belges, t'as Lamens qui est à Bruges et qui va partir parce qu'il sait que la porte est barrée par Simon Mignolet. Il veut jouer, donc où est-ce qu'il ira, on verra bien. C'est le deuxième gardien du club de Bruges qui est un bon jeune. Sinon, il y en a de 17-18 ans chez les classes de jeunes, mais je t'avoue que je le connais pas spécifiquement. Non,
ouais, Verbruggen, c'est un néerlandais, donc
Verbruggen, je te l'aurais dit avec grand plaisir parce qu'il est incroyable, il est très très fort, mais malheureusement, c'est pour les Pays-Bas.
Et Leysen, le remplaçant de Van de Voort? Parce qu'apparemment aussi il est bon, mais je l'ai jamais vu.
Apparemment, ouais, dans des échos, j'ai jamais vu non plus, mais des échos, c'est vrai qu'il est bon. Sinon, j'en étais où? J'étais au Standard. Bodard devrait partir. Ici, il y a rumeur Mercato. Parce que tous les lundis, en fait, sur mon Twitter, je mets un truc de Mercato avec toutes les rumeurs qu'il y a. Et il y a une rumeur pour un futur gardien du Standard. Donc, dans le truc de Mercato qui là sera sorti. Donc, vous pourrez aller voir sur Twitter. Mais un gardien de Turquie qui serait apparemment que le Standard aurait fait une offre. Un bon jeune. Ou alors, ils donneraient leur chance à Ankines à voir s'ils recrutent un gardien ou pas. Mais Bodard, lui, devrait partir. Il a clairement dit j'ai pas envie de faire l'année trop et tout. Donc, lui, il partira.
Ouais, et il y a un truc aussi qui part Dussen, le capitaine Courage. Là. Ouais, il y avait des rumeurs, je crois, c'était au Spartak
Lokomotiv Moscou.
Ah, c'était au Lokomotiv pendant le mercato.
Il n'est pas parti parce qu'en fait, il restait encore 6 mois de contrat. Il était en 30 juin en fin de contrat. Mais le Standard ne veut pas négocier avec aucun club russe à cause de la guerre. Donc, en fait, le Standard voulait une indemnité de transfert en janvier pour le libérer de ses 6 derniers mois de contrat. Le seul club intéressé était Lokomotiv Moscou. Mais du coup, vu que c'était un club russe, il ne pouvait pas partir parce que le Standard voulait voulait pas accepter l'offre de Moscou vu que c'est un club russe. Donc maintenant qu'il est libre, bah, il pourra aller où il veut.
Tu sais où est-ce qu'il va partir ou...
Honnêtement, je pense...
Sacha, il n'a rien dit encore.
Il y en a beaucoup qui me posent la question, énormément, sur Dussen. Et clairement, je pense que ça va être un pays de l'Orient. Ça, je ne sais pas, mais un pays, en tout cas, où il va toucher beaucoup d'argent. Donc, style la Russie, peut-être aller, je ne sais pas, la Chine, l'Inde, le Qatar, les Émirats, peut-être même la Turquie, hein, pourquoi pas la Turquie. Mais en tout cas, à son âge, c'est clairement un prix qu'il va aller chercher. Il va aller chercher un gros contrat, un gros dernier contrat, clairement, ça c'est sûr.
Bon, on espère. Moi, je l'ai en rare, je le garde en espérant qu'il aille dans un championnat couvert. Sinon,
ça va être chaud. Sinon, pour Westerlo, ben, Bolat, pour moi, restera. Il a fait une très bonne saison avec Westerlo. Il est encore sous contrat et tout, malgré son âge. Donc, Bolat restera. Au cercle, on a Majeki, mais qui est en prêt.
Westerlo, excuse-moi. Ouais. Westerlo, De Kuyper, il retourne à Bruges.
Ouais, De Kuyper, il est en prêt à Bruges, il va retourner à Bruges.
Ok.
Donc, à moins.
Gros scoreur, Sorare cette saison. Ouais.
Mais attention, parce que beaucoup m'en parlent, attention, parce qu'à Bruges a quand même mis pas mal d'argent pour Bjorn Meyer, qui a quand même fait une bonne saison sur le flanc gauche à Bruges. Ouais. Donc, ils vont être tous les deux en sérieuse concurrence. Maintenant, De Kuyper, on en parle beaucoup pour faire le piston gauche de l'équipe nationale belge. Donc, j'espère pour lui qu'il aura sa chance à Bruges, que s'il arrive à s'imposer à Bruges, surtout dans le système de jeu de Ronny Deila, comme l'occupait à Rondonum, notamment, c'est le même profil, faire attaque-défense. Il aura beaucoup de possibilités offensives. Ça peut être incroyable. S'il devient titulaire à Bruges, clairement, ça peut être un délire. Ça peut être le meilleur défenseur U23 du jeu, même. Mais ça, c'est s'il est titulaire. Parce que Bjorn Meyer, ils ont mis l'argent pour l'avoir de Groningen. Hein, tu vois, ils ont mis entre 3 et 5 millions. Donc, il va avoir une sérieuse concurrence, sachant que Meyer a fait une bonne saison.
Okay.
Ça va être intéressant à voir.
Super.
Au cercle de Bruges, on a Majeki, qui est le gardien, mais qui est en prêt de Monaco. Donc, moi je dis, signal d'alarme, attention si vous l'avez, qu'il fasse pas une Didion. Didion, qui était le gardien l'année passée du cercle, qui le Monaco l'a voulu, et maintenant il chauffe le banc à Monaco.
Ouais.
Donc, ça, attention. Charleroi, Kofi, j'aurais pas cru, je pensais qu'il allait rester, mais Mehdi Bayat m'a dit comme quoi il était énormément courtisé, donc il y avait beaucoup de clubs intéressés. Donc, on serait vraiment pas. Moi, j'aurais bien aimé, je t'avoue, honnêtement, le prendre en cap 240 SR, Kofi. Mais vu le fait que Bayat m'a dit comme quoi il était courtisé et tout, et vachement apparemment qu'il y avait beaucoup de clubs qui toquaient à sa porte, il m'a pas dit lesquels, mais il m'a dit qu'il y avait pas mal de clubs qui toquaient à sa porte pour Kofi, ben je prendrais pas le risque. Donc Kofi courtisé, donc attention.
Et Pierre Patron, tu penses qu'il peut avoir sa chance? Il est
pas
mal.
C'est la question, c'est est-ce que Pierre Patron sera le gardien numéro 1? Il est pas vraiment apprécié par tous les supporters. Maintenant, Bayat n'aime pas toucher au cordon de la bourse, donc soit il met Pierre Patron, soit il ira chercher un coup de poker. Honnêtement.
Okay.
Pour Anderlecht, Beverbruggen, pépite, incroyable.
Ouais.
Anderlecht joue pas l'Europe, il partira ou pas. Ou est-ce qu'il fera comme une Van de Voort, être transféré dans un gros club et être prêté un an ou deux, mais sachant
Tu le vois, il y a des rumeurs comme quoi il partirait déjà maintenant.
Verbruggen, ouais, il y a énormément de clubs intéressés par lui. On a du Chelsea, du Manchester United. Manchester United a déjà dit qu'il voulait acheter aussi un gardien pour concurrencer DGA. Le coach l'a déjà dit officiellement et tout. Donc est-ce qu'il ira là ou pas pour concurrencer DGA? Ça peut être un très bon coup de Manchester United s'il le fond, mais moi je l'ai vendu vraiment quand il avait pump énormément son prix en limited. Je l'ai vendu très très cher, j'ai vendu plus de 0,1 ETH. Donc je pense qu'il va falloir être très 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 méfiant, parce que qu'il ne fasse pas genre être un numéro 2 ou quoi dans un grand club. Mais je pense qu'il pourrait partir, ouais, clairement. Ça, surtout le défaut, il serait peut-être resté si Anderlecht avait de la coupe d'Europe, et Anderlecht n'a pas de coupe d'Europe, donc ça peut jouer
à moins qu'il y ait un gros club qui l'achète et qui le prête dans la foulée, ouais, pour qu'il continue à faire ses gammes, quoi.
C'est ça, exactement. Mais ça, c'est un risque, quoi, parce que comme on l'avait vu avec le gardien Slonina, le gardien MLS, que tout le monde disait que c'était une star, il était à Chelsea, au final il joue plus.
C'est vrai.
Donc faut faire attention, quoi. Je tiens à prévenir.
Donc je me place pas sur sa SR, quoi.
non, ouais, elle est en enchère en plus. Je l'ai vu, aussi. Mais,
Je la suis de très 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 loin. Très très loin.
Ici ils ont mis que des gardiens au SR, ça m'arrange pas. En plus des gardiens qui jouent pas forcément.
Moi j'ai besoin d'un gardien U23 SR, tu vois.
Ah ouais.
Je vais faire une cape et je vais faire une U23 SR. Donc il manque plus que le poste principal et le plus cher, c'est le gardien.
Ouais. Ah ouais. Ça c'est clairement. Mais Verbruggen, c'est sûr que s'il reste son scoring, il est. Parce que le mec, il fait du AA, mais incroyable.
Ah, grave. Hein. Ouais, c'est une machine à.
C'est une machine, hein, clairement. Okay. Des fois, il a été sortir ses arrêts cette saison. C'était incroyable.
Ouais, il est bon. Ouais.
Et j'ai un dernier point pour du coup parler de la Pro League, qui peut être aussi vachement intéressant pour toute la communauté francophone de Sorare. J'ai pris les 20 plus gros joueurs de Sorare qui ont au niveau du L40. Et je vais dire selon moi, ils partiront, resteront au niveau du Mercato. Donc ça peut être intéressant.
Ou le scoop.
Ça
magnifique.
Peut être intéressant. Le premier, on a le GOAT, hein, je l'adore, c'est Teddy Thomas.
Ouais.
Oh, t'adores Teddy Thomas, je parie.
Ah bah oui, le Maltais, là, quel taureau celui-là. C'est fou, son histoire est dingue. Quand j'ai été voir les matchs à l'Union, et quand j'étais en déplacement dans le car là, jusqu'à Leverkusen, au aller-retour, cours, j'étais avec le fameux Robert. Il y a eu un article d'ailleurs que j'ai partagé sur Twitter il y a 2-3 jours, qui est le doyen au niveau des supporters. J'étais à côté de lui, il m'a expliqué toute l'histoire. Mais il a une histoire de foot, hein, vraiment.
Il est
arrivé ici, il avait un boulot à côté, il a commencé très bas, et puis le gars, il est monté en puissance, et sur le tard, quoi, tu vois. C'était pas un crack ultime à 18-19 ans. Hein.
Non, c'est un bosseur. Clairement. Il était au Red Star en France, et même tous les Français, quand je parlais de lui ou quoi en live, il me disait, mais Thomas, en Red Star, c'était déjà même pas une star ou quoi, c'était en national.
Comme quoi,
à force
de persévérance, et ben voilà.
Et ouais, franchement, il me régale quand il va au stade, même à la 89e, il se bat encore comme un chien et tout.
C'est un lion. Ouais.
Mais lui, pour
donc
la
lui,
saison prochaine.
Quoi, alors, moi, on m'a dit à l'Union, clairement, il y a. Mm-hmm. Voilà, je te laisse d'abord parler, vas-y.
C'est dit 50-50. Il a déjà failli partir cet été, honnêtement, et je le sais de source quand même assez sûre, comme quoi il y avait Genk qui proposait un salaire de 1,2 million. Comme quoi il disait que même si le Standard proposait 975 000, il allait au Standard. Il voulait jouer au Standard. Mais le Standard n'a rien proposé, tu vois. Ouais, il savait plus de sous. Mais donc il a vraiment failli partir cet été. Il est resté à l'Union, sûrement pour la Coupe d'Europe et tout. Il a fait son bail cette année en Coupe d'Europe. Ici, il a dit tout le monde dit que je pars, mais je partirai pas forcément. J'attends de voir si l'Union suit au niveau du financier et du sportif. Ouais. Donc, à voir si du coup il restera ou pas. Je veux dire, c'est du 50-50, même je dirais peut-être même plus du 60-40 pour qu'il parte, honnêtement, parce qu'il a déjà vraiment failli partir l'été dernier.
Moi, l'Union m'a dit qu'il y avait quand même une grosse probabilité qu'il parte, mais effectivement, l'aspect financier est quand même assez important. Si les infos que j'ai reçues sont correctes, il a 500 000 euros par an, qui fait de lui un des salaires les plus bas pour niveau de jeu qu'il a au niveau des stars. Donc, c'est vraiment très très bas. Donc, à voir si effectivement il y a moyen d'augmenter son salaire, mais c'est clairement un clubman aussi, donc
Vraiment ça. Et je te confirme, c'est bon les chiffres de 500 000 euros, et c'est pour ça que je te disais qu'il touchait plus que deux fois ça à Genk, et que malgré ça, même s'il touchait moins, il aurait quand même été au Standard. Donc je pense que l'aspect financier est important pour lui, mais attention que l'aspect sportif est quand même aussi vachement important. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Le deuxième, Okumu, très bon défenseur de la Gantoise, qui pour moi, je pense, devrait rester. Ensuite on a Munoz qui devrait partir, et surtout attention, encore un signal d'alarme, faites attention parce qu'il peut nous faire une Onua Chubis, parce qu'il risque de partir dans un club de première ligue vraiment en style comme Onua Chubis est parti à Southampton, donc son scoring pouvait passer de 60 plus à des 80, des 40 clairement, donc attention à Munoz.
Ça fait déjà pas mal de temps, c'est quelques saisons aussi qu'il y a des rumeurs sur lui.
Clairement. Mike Trezor, le coup de patte. Oh là là, magnifique, ses coups francs, ses corners, c'est splendide. Pour moi, c'est 60% qui partira. Mike Trezor, il pourrait rester. Il a toujours dans sa tête absolument l'espoir d'aller en équipe nationale belge. À voir quel club se positionne. Il y a Besiktas qui est intéressé, mais je le vois vraiment pas partir de Genk pour aller du Besiktas. Donc ça va vraiment voir quel club sera intéressé pour lui. Mais il est encore jeune, hein. Il est pas vieux, hein. Donc Mike Trezor, je dirais du 60-40. Ensuite on a Piatkowski, quelle saison incroyable avec la Gantoise, c'est très 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 fort, même le scoring, hein. Si tu veux un défenseur U23, malheureusement le problème c'est voir la situation, il est en prêt de Salzbourg, Salzbourg risque de vendre ou Marsolet, donc il pourrait lui donner sa confiance. Maintenant, passer de la Gantoise défenseur à défenseur à Salzbourg, le scoring resterait toujours bon si il est titulaire à Salzbourg, mais le joueur aimerait rester à la Gantoise, le joueur l'a dit, il n'a pas envie de retourner à Salzbourg, il veut rester à la Gantoise. Donc Piatkowski, il faudra vraiment suivre, parce que c'est Salzbourg qui a voir si la Gantoise va proposer une offre. Mais un jeune comme ça, avec un énorme potentiel, à voir combien Salzbourg pourrait lâcher.
Ouais, et puis il faut voir aussi si. Parce qu'il y a Soleil aussi qui pourrait partir de Salzbourg et il pourrait prendre la place de Soleil.
C'est vrai qu'il y a une passe à prendre, c'est pour ça que je dis que même pour moi, s'il va à Salzbourg et titulaire, que ce soit Salzbourg ou la Gantoise, son scoring sera quand même incroyable. Donc. Le suivant, Toby Alderweireld dans les meilleurs L40, et Toby Alderweireld, capitaine incroyable, restera, pas de doute là-dessus. Un gros amoureux du club, il kiffe trop le club, c'est incroyable.
Pencil prendra sa retraite là, je pense.
Ouais, je pense aussi qu'il prendra sa retraite là aussi. Pencil qui, pour moi, je dirais 65% qui partent. Pencil, il sort d'une bonne saison, il risque d'avoir une bonne offre avec un bon contrat, sachant qu'il n'aurait pas forcément été titulaire si Oyon le jeune n'était pas blessé ou quoi, donc il pourrait partir. Bon, on a deux Kuiper qu'on a parlé précédemment qui retournent à Bruges. On a Dusen qu'on a parlé aussi précédemment, que dans les tops en L40, Dusen c'est bye bye d'office, ça c'est déjà fait et tout. J'étais au dernier match du Standard à domicile le week-end dernier et clairement il a applaudi tout le stade et tout le stade. Il y a une partie du stade qui a chanté son nom et tout. Moi je t'avoue que j'étais pas fan du joueur en vrai. Beaucoup trop lent, se faisait dépasser sur chaque accélération et tout. Ouais. Mais il a, on n'a rien à lui dire sur le fait de la combativité, des duels et de motiver l'équipe, esprit leadership, ça y a rien à dire. Mais sinon, le type il est dépassé, il est beaucoup trop lent, mais il partira. Van Aken pour moi il va rester à Bruges clairement. Il y avait eu l'éternel débat de Van Aken à West Ham.
Première ligue.
Quel débat l'été dernier.
Qu'est-ce qu'il va faire là-bas?
Franchement.
Je crois qu'il allait faire une Nuachu là-bas.
Ah ouais clairement.
Tu joues le premier match et puis tu fais banquette.
C'est vraiment ça. Mais du coup, je pense qu'il a prolongé jusqu'en 2027 avec revalorisation de contrat et tout. Donc, je le vois vraiment bien rester. Autre joueur qui est intéressant aussi pour ce soir, c'est Slimani. Faïs Slimani de Courtrai. Très bon joueur. Qui pour moi, lui, c'est 80%. Il partira de Courtrai cet été. Attention, méfiance. Il aime bien l'argent. Il a failli partir en Arabie Saoudite en hiver. Ouais. Je pense qu'il aimerait bien un club comme le Standard, Anderlecht ou quoi qu'il mise dessus. Mais le problème, c'est qu'il a des demandes salariales beaucoup trop importantes pour un club comme le Standard, notamment. Donc, attention à voir où il va partir. On est à l'abri de rien. Le suivant, Zorgan, de milieu de terrain de Charleroi. Très bon jeune aussi. Je dirais 70%. Que lui il parte il veut absolument la première ligue. J'en ai parlé avec Bayat et énormément demandé Zorgan. Donc Zorgan, attention.
Même si en première ligue, il est énormément demandé.
Mais lui veut absolument la première ligue. Il m'a pas dit les clubs qui étaient intéressés par Zorgan, mais lui, je sais qu'il veut absolument partir là-bas. Donc s'il part là-bas, ça peut faire une on-watch ou clairement. Ça peut être dans un club qui va s'appeler.
C'est dommage parce que moi, je l'ai en rare. Tu vois.
Ouais.
Et il m'a été bien utile en U23.
Ouais. Ah ouais. Très très fort son scoring à Charleroi. Maintenant, il est conscient que c'est grâce à Charleroi qu'il est là. Donc si Mazou et Bayat lui disent: allez, tu fais encore une saison pour qu'on aille dans les playoffs 1 et après on te signe le club que tu veux, peut-être. Tu vois. C'est pour ça que je mets 70 et que je mets pas plus. Tu vois. Tu pourrais même mettre 60. Tu vois. Mais il y a plus de probabilité qu'il parte, qu'il reste, mais il y a quand même une probabilité qu'il reste.
Okay.
Attaquant, Kuipers, ben, je vais aussi faire l'aparté et parler du crack, hein, du génie, de la pépite Orban. Hein. C'est très, 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 très fort. Kuipers, pour moi, restera. Il vient de signer, ça fait seulement un an qu'il est à la Gantoise. Il va terminer meilleur buteur du championnat. Il va jouer l'Europe avec la Gantoise. Il va vouloir faire quelque chose de très intéressant l'année prochaine. Donc, je dirais pour plus ou moins 70-80% qu'il reste, parce qu'on n'est jamais à l'abri, parce qu'il sort d'une belle saison. Donc, je pense qu'il y aura des offres pour lui, clairement. Mais avoir quelle offre, mais il pourrait rester. Par contre, Gift Orban, 90 à 95% de chances qu'il parte.
Il est convoité de partout.
Hein. Oh, c'est très,
c'est un sacré coup, hein, de la Gantoise. Hein.
Mais c'est surtout le fait de mettre, parce qu'ils ont quand même payé 3,5 millions pour un club belge, comme énorme. Mais payer un joueur comme ça qui vient des pays nordiques 3,5 millions pour. Ça se trouve, c'est un coup de poker, il peut flop et pas s'acclimater au pays. Quoi. Mais lui, je sais pas que tu écoutes son interview, il t'a marqué 3 buts, il dit: ouais, non, j'ai marqué 3 buts, mais j'ai raté cette occasion-là, j'aurais dû en mettre 4 ou 5. Moi, je veux marquer tout le temps, je veux tout le temps gagner, je veux jouer plus haut, je veux jouer dans les meilleurs clubs, je veux jouer à la Champions League, Arsenal, je veux pas l'Arsenal parce que c'est un trop petit club pour moi. Et il l'a dit, hein, il l'a dit, donc il a sous-entendu comme
ça. Il est sûr de lui.
Ah ouais, vraiment, il a une confiance en lui incroyable. Mais il y a plusieurs rumeurs dans tous les clubs et tout. Il y a du Lille. À Lille, ça peut être vachement intéressant pour remplacer Jonathan David. Mais si, par contre, il va à Monaco qui prône souvent un jeu offensif, le scoring attaquant U23 à Monaco, ça pourrait être pas mal. Hein. Sinon, on a Vertonghen, il restera encore Anderlecht. Maintenant, attention, il reste qu'un an de contrat. Et il a dit comme quoi, à la fin de l'année, il avait dit ça quand il arrivait en direct, il a dit: à la fin de mon contrat, je prends ma retraite. Donc normalement, il lui reste plus qu'un an à jouer sur Sorar. Donc attention.
Ouais, c'est bien, j'ai pris ça à SR récemment.
Ah ouais. Mais il pourra t'amener des paliers. Il n'y a pas l'Europe, mais il pourra t'amener des paliers. Mais si tu sais le revendre avec une plus-value.
C'est pour ça que je prends des vieux pas trop chers. En général, ils sont vite rentabilisés s'ils ne se blessent
pas. Ouais. Surtout que Vertonghen, il peut te flinguer 3-4 mois comme il peut te taper des 100.
Exactement.
Lui, c'est comme ça. Il y a Kadri, très bon jeune de Courtrai, qui pour moi pourrait partir. Il a fait une très très bonne saison, excellent scoring sur Storar. Je dirais plus ou moins 80% de chances qu'il parte. Il y avait des rumeurs à Bruges, par exemple. Mais Bruges va devoir recruter à ce poste-là, parce qu'on a notamment des Noah Lang, des Noah Lang qui va partir, des Skovelsen qui risque de partir aussi et tout. Donc il y aura de la place pour Kadri. Et donc Kadri, très intéressant. Verbruggen, on en a parlé précédemment.
Ouais.
Hugo Siquet, oh là là, incroyable.
Il est bon lui. Hein.
Incroyable. J'adore ce joueur. Je l'aimais déjà quand il était au Standard. radar. Il est parti à Fribourg, je n'ai pas trop compris pourquoi, il ne jouait pas. Et là, il a fait un excellent choix pour revenir au cercle Belgique et au cercle de Bruges. Ah, il a encore prêté un an, donc ça c'est très important, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Il a encore prêté un an, c'est un prêt de 18 mois. Donc toute la saison prochaine, il sera encore au cercle de Bruges, il tire les phases arrêtées, c'est un U23, il fait du Ascor, il peut faire du DS. La vérité, très très intéressant le petit Hugo Sique. Hein. On a Janssen, l'attaquant de l'Antwerp, l'attaquant phare, il est tellement adulé par le club, par les supporters, mais il est surtout aussi payé excessivement cher. Contrat de 5 millions qui touche annuellement pour la Belgique, c'est un prix astronomique. Et du coup, je pense qu'il va vraiment rester. L'Antwerp va jouer la Coupe d'Europe et tout, donc il est hollandais, le coach l'est aussi, donc c'est toute la spirale comme ça. Janssen, pour moi, il restera à l'Antwerp. Et le dernier, c'est Alzate de Brighton, qui était prêté au Standard, qui devrait retourner à Brighton parce que normalement, selon les rumeurs, ils vont perdre McAllister et sûrement Caicedo dans le milieu de terrain, donc peut-être donner sa chance à Alzate, mais apparemment Ronny Deila le voudrait peut-être avec lui à Bruges, vu qu'il l'a connu au Standard, donc peut-être un Alzate à Bruges, pourquoi pas.
Eh ben magnifique, voilà. C'est une fois de sacrée liste.
Ouais, la communauté aura de quoi se régaler.
Ah ouais, là ça va aller partout là, dans tout le truc, les alertes, les machins, dit tel et tel joueur, c'est magnifique. Écoute, super, super, excellent travail, dit, ouais, excellente préparation, c'est vraiment. C'est top. Ouais, bon, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter. Hein. Il y avait juste un. Moi, j'avais une question. Aliou Fadera, je le trouvais.
On me la pose beaucoup cette question.
C'est vrai, toi aussi. Ouais. Moi, je le trouve super fort. D'ailleurs, c'est un des premier joueur que j'avais repris quand j'étais revenu en rare. Je le trouve vraiment, vraiment très, très fort. Lui, tu as des rumeurs? Moi, de mon côté, j'ai des rumeurs comme quoi il resterait en Belgique, mais qu'il irait dans un autre plus gros club.
Ouais, il y avait des rumeurs des gros clubs belges, notamment Genk et Anderlecht, qui étaient dessus. J'espère vraiment qu'il va pouvoir y aller, parce que pour moi, il n'a pas du tout sa place en Division 2. Il a été élu meilleur joueur du club, tout clairement mérité. Il est incroyablement fort. J'espère le voir autre part qu'en des deux. Zult, par contre, a confirmé comme quoi il y avait Vormer et Vossen. Très bon pion du championnat et tout ils les ont prolongé donc ils seront avec en D2. Ouais, c'est fou qu'ils restent, mais du coup, vu qu'il y aura peut-être trois montants, ils veulent viser absolument la montée. Pour moi, ils vont faire l'ascenseur, ils vont directement remonter en D1, mais je pense pas que tu aies besoin. T'as déjà un Vossen, t'as déjà un Vormer en D2, je pense pas que t'as besoin d'un Fadera. Je pense qu'il a une bonne valeur marchande, tu peux quand même essayer de le vendre. Ouais, donc j'espère qu'il va partir et qu'il sera encore couvert, et j'espère en Belgique.
Et Gianni Bruno
il revient à la Gantoise. D'ailleurs, lui, j'ai une belle petite anecdote sur lui. Il a failli partir à Charleroi, mais ça s'est pas fait d'un point de vue financier. Il voulait même être payé moins cher, mais Bayat, qui est vraiment proche de son argent et tout, a pas voulu mettre la demande salariale de Bruno, qui demandait quand même moins que ce qui touchait à la Gantoise et à Saint-Tron. Et vu la proposition, il a dit on rigole ou quoi. Mais voilà, c'était la petite anecdote qu'il a failli à Charleroi. Mais ici, il revient à la Gantoise, du coup, parce qu'il était en prêt de Saint-Tron, et il a dit comme quoi il avait envie de tenter sa chance à la Gantoise. Donc, ouais. Si Orban part, il y aura une place à prendre. Maintenant, ce serait une lutte entre lui, parce qu'il a fort le même profil que Kuipers. Donc, ce serait entre lui, Kuipers et Tissou Dali pour deux places.
Compliqué, hein.
Compliqué, ouais. Donc, mais maintenant, ils vont jouer trois compétitions et tout. Il y aura besoin de rotation. De Poitre, pour moi, il a fait son temps. Donc, ça. Donc, ça le permettrait de ne pas acheter un attaquant, d'avoir un très bon attaquant qui connaît très bien le championnat et tout. Mais la concurrence va être rude.
Verdict bientôt, hein.
Ouais, parce que s'il reste.
On sera vite fixé.
S'il reste, la Gantoise, elle est deux meilleurs buteurs de la phase classique du championnat dans son effectif.
Ouais, c'est lourd. Bruno, il est vraiment impressionnant. Un vrai scoreur. Et c'est la vrai. Facilité de marquer, c'est impressionnant. Bon, écoute, super. Merci pour ce travail vraiment approfondi. On va attaquer les deux dernières parties de notre podcast. Tout d'abord, le questionnaire rapide pour l'invité. T'es prêt?
Ouais, je suis prêt.
Alors, ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorare, et pourquoi tu le ou les choisis?
Alors, le GOAT, hein, le King, hein, Kevin De Bruyne, hein. C'est... ah là là. C'est trop beau à le voir jouer. Moi, je jouais le poste de numéro 10 au foot, toi. Et quand je vois la qualité de passe qu'il a, c'est magnifique. Il sait te changer un match dans un angle fermé. Il va te mettre une passe décisive. Et s'il a un bon finisseur devant, il va. Et puis, tu vois, je sais pas, sur le terrain, t'as l'impression qu'il se fait chier, tu vois. T'as l'impression qu'il surpasse pas son visage. Il n'y a pas d'émotion et tout. Il est tranquille. Quand il devient un peu rosé, un peu rouge, c'est que là, il va se transcender.
Ça commence à chauffer.
Non, la vérité, il est très, très fort.
Il y a le diesel qui se chauffe.
Ouais, c'est vraiment ça. Je suis content qu'on l'ait pour notre pays, même si. Il est quand même moins performant avec notre pays qu'avec City. Il n'a pas les mêmes joueurs autour.
Ouais,
mais
c'est clair.
C'est Kevin De Bruyne. Et sinon, au point de vue de la Belgique, c'est Teddy Thomas qui régale. Quoi. J'espère qu'il restera en Belgique.
Ok. Et donc pour Sorare, tu prends Thomas?
Ouais, Teddy Thomas, niveau scoring Sorare, il fait du A, il tire les corners, ils tirent les coups francs, ils tirent les pénaltys, ils pouvaient faire du sang facile. Ouais, Teddy Thomas, j'adore.
Super. Alors, ton plus beau résultat, comme tu as gagné 4 fois, alors la plus belle, c'était quoi?
La plus belle, c'est la seule et l'unique. Je peux dire que j'ai le seul et unique à avoir gagné la spécialiste Europa League. Tu vois, ils avaient fait un week-end, une midweek où ils avaient fait la spécialiste Ligue des Champions, la spécialiste Europa League et la spécialiste Conference League. Et j'ai gagné la spécialiste Europa League avec notamment un sang de Teddy Thomas en Europa.
Magnifique.
Et t'avais gagné qui? Je trouve ça dommage. J'avais gagné Jude Glass. Au début de saison, il valait quand même un peu d'argent, on va dire. Et j'ai gagné Jude Glass de la Belgique, en plus un joueur de Pro League.
Mais en rare, tu l'avais acheté.
Non,
tu l'avais
gagné. Non. Les compétitions comme ça, c'était une... ça aussi, c'était comme quoi je me fais douiller de tous les côtés. C'était que des limited, malheureusement.
Merde.
Ouais, comme par hasard, je la gagne, la spécialiste. Et bien, comme par hasard, c'est celle où il n'y a pas de rare.
Ta plus belle récompense.
J'ai déjà gagné Sho Sasaki en rare, donc ouais, très bon joueur. Et j'ai déjà gagné aussi GK Asia en spécialiste limited, mais du coup GK Asia rare, donc ça c'était cool aussi.
Ok, super. Sho Sasaki, tu l'as encore?
Non, je l'avais vendu, mais je l'ai racheté par après, et ici j'essaye de le vendre parce que du coup il rentre plus dans ma stratégie de cap 240. Je veux plus avoir de GOAT en fait. Je veux plus de GOAT en rare et en SR. J'aurais pas le budget, mais je veux plus de GOAT en rare, et ce sera uniquement pour les limited, et je l'ai en limited.
Ok, donc tu veux avoir tous les GOAT en limited, et puis c'est quoi, cap 240 rare, et avec le reste tu All-Star ou cap 270, et idem en
exactement,
super.
Exactement.
Super. Ton plus gros coup de poisse, tout à l'heure tu m'avais fait un chouette teasing, bon bah vas-y, maintenant tu peux y aller.
Mais
c'est le moment.
C'est toujours cool de rentrer sur ce rare et de se dire, à ce moment-là, il faut acheter un GK, tu vois. Bon, on achète un GK, les GK, ça coûtait une fortune, vraiment une fortune. Donc du coup, j'achète un vieux GK. Logique, parce que ça coûte un peu moins cher et je visais le palier. Et je me dirige vers la MLS vu que c'est la fin de saison. Je m'achète ce bon vieux Brad Guzan. Et ce bon vieux Brad Guzan, le match d'après où je l'ai acheté, il se fait la même, comme par hasard, la même blessure que moi, il se fait une rupture totale du tendon d'Achille. Donc super, je viens de taper des milliers d'euros pour un gardien qui a déjà un âge avancé et qui se pète le tendon d'Achille. Autant te
mais
dire
c'est
que
bien, c'est bien, t'as fait la totale directement, donc tu l'as même pas utilisé quoi.
Ah, j'ai utilisé une game week et c'est la game week où il s'est pété.
Ok.
Ouais, bon, je dis super quoi, ça motive bien à jouer à ce rare quoi, ouais.
Et tu l'as toujours?
Non, je l'ai vendu parce que je me dis je dois retrouver quelque chose et tout, donc je l'ai vendu et j'avais racheté, mais du coup son remplaçant pour continuer un peu à jouer les cap 240, mais son remplaçant il encaissait. Je vois, ça me saoule, j'ai vendu aussi. Ouais, j'ai bien commencé.
Focus Pro League. Là, tu te dis, Pro League, finalement, c'est pas mal.
Merci, exactement. Avec toutes les infos et les connaissances que j'ai sur la Pro League, maintenant, c'est Focus Pro League et au moins, je me ferai pas. Mais non, je suis pas à l'abri qu'un gardien se blesse aussi, tu vois. Mais j'aurai
mais
des backups.
Tu connais un peu mieux, quoi.
Oui, voilà, ouais, exactement.
Voilà.
Exactement. J'aurai beaucoup plus d'infos aussi. C'est maintenant, c'est pour ça que ce sera la Pro League.
Alors, ton joueur à suivre?
Alors, j'en ai sélectionné pas mal, notamment du coup, spécial Pro League pour vous, mais surtout pour l'année prochaine, avec des coups de poker à tenter, pourquoi pas. J'ai noté Tarek Tissoudali, le Marocain. Qui d'ailleurs rappelé ici pour les matchs du Maroc, qui a eu une grave blessure, qui s'est fait les croisés, et là qui est revenu petit à petit ici fin de saison. Il est revenu tout doucement, il s'est toujours sur le banc, mais il a été décisif notamment les deux derniers matchs avec une passe décisive et puis après ici un but le week-end dernier en sortant du banc. Tarek Tissoudali qui peut être très intéressant au niveau de l'année prochaine, surtout qu'il l'a dit, il a annoncé merci à la Gante, parce qu'il a failli partir lui aussi avant sa blessure lors de l'été dernier, aussi dans un championnat
dans un
couvert,
Exactement,
ouais. Et ici, il a dit, je remercie vraiment la Gantoise de m'avoir prolongé, de m'avoir prolongé mon contrat lors de ma blessure. Donc, il a dit, j'ai du respect pour ça. Et je partirai uniquement la dernière année de mon contrat. Comme ça, je reste à Gand. Donc, il a un contrat, je crois que c'est jusqu'en 2026 ou 2027. Donc, si c'est 2027, il partira l'été 2026. Comme ça, vous le savez déjà en exclu. Il partira l'été 2026. Et il a dit, je ferai ça parce que je veux rendre les services à Gand qui m'ont fait de me prolonger un contrat. Et je veux que Gand touche une indemnité pour mon transfert.
Bah, écoute, super.
Donc, ça, Tissoudali, pas mal. J'aimerais bien l'acheter en SR, mais les managers demandent beaucoup trop. J'ai contacté son Discord et ils demandent beaucoup trop, mais on essaye.
Cher.
Ouais. Mignolet, rien à dire. Il en comptera jusqu'en 2025 ou en 2026 avec Bruges. C'est le cadre. Ici, il a déjà mis un message sur Instagram avec le dernier match de la saison qu'ils ont perdu ici contre Genk. Il a dit merci pour tous les supporters à l'année prochaine au stade. Donc, c'est clairement qu'il va rester et tout. Il joue la Coupe d'Europe, c'est le cadre, c'est le capitaine.
Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'il va partir, tu vois.
Non.
Enfin, qui va prendre sa retraite, mais je dis,
Non,
il est loin de prendre sa retraite.
Oh oui, il a encore quoi, 2 ans ou 3 ans de contrat, donc on est encore safe. C'est pour ça que c'était un de mes premiers choix à acheter en SR et je l'ai acheté pas trop. Je pense que je l'ai acheté à un prix intéressant, donc c'est cool. Aldo Herald, bah, capitaine, il peut faire du gros scoring, il peut faire du DS, il peut marquer sur les corners. C'est lui le deuxième tireur de penalty, ou des fois avec Janssen, bah, c'est lui le premier. Donc très très fort. Antwerp jouera l'Europe, Antwerp jouera l'Euro de classement. Son compère latéral, c'est Bataille, le défenseur U23. Ouais, Yael Bataille, défenseur U23, qui franchement est vraiment monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Jeune U23 qui peut faire du DS, qui peut faire du A-score aussi, donc ça c'est intéressant. Dans le même style qu'un Hugo Sique, notamment qu'on a parlé plus tôt. Un que j'aime bien, qu'on parle pas trop, c'est Sibé Scrivers de l'OHL. Ouais, il a eu quand même une blessure importante, il est revenu ici sur la fin de saison, il a fait un bon scoring, c'est un bon joueur, je l'aimais déjà bien quand il jouait plus haut et tout, donc c'était vraiment fort. Et le dernier petit conseil, c'est Watanabe, défenseur de Courtrai, qui est courtisé par la Gantoise et Bruges. Il faisait déjà du bon scoring à Courtrai, s'il a Gant ou s'il a Bruges, qui est dans les deux équipes que j'ai conseillé, ça peut être vachement intéressant.
Pas mal de pistes à suivre. Mmh. Et alors, dernière question, bon, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire?
Tout d'abord, ben, la première chose, merci d'avoir créé Sorar, parce que ouais, je sais pas si ma compagne dit merci, mais ça demande du temps.
J'ai quasiment chaque fois la même réponse, tu vois.
Ah ouais, mais si, parce qu'elle sait que ça me passionne et que j'adore faire ça, donc je crois qu'elle est contente et tout. Elle dit jamais rien que je sois sur Sorar et tout, elle le sait, donc ça c'est top. Mais je dirais merci d'avoir créé Sorar parce que c'est vraiment cool et que j'espère qu'ils vont faire quelque chose de vraiment top. Que c'est cool les expériences IRL, notamment comme tu l'expliquais dans l'avion à Milan. S'imagine, je pourrais gagner ça une fois sur Arsenal, Manchester City ou quoi, être dans le même avion que Kevin De Bruyne ou quoi. Ça peut quand même être vachement intéressant de pouvoir échanger avec lui. C'est franchement un top. Sinon, je dirais maintenir les paliers, clairement, c'est vital pour Sorar. Je pense que s'ils retirent les paliers, parce que ici ils avaient communiqué au début d'année que c'était mis en place le truc comme ça jusque juillet, quand ils adapteraient ou quoi en fonction et tout. J'espère vraiment qu'ils vont pas retirer les paliers parce que sinon pour moi tout s'écroulerait. Parce que je sais qu'ils veulent un jeu de collection, mais il faut pas oublier comme quoi il faut qu'il y ait une rentabilité et les paliers permettent aux personnes d'être là. J'aimerais bien voir qui continuerait à mettre de l'argent dans Sorar s'il n'y a plus les paliers ou plus un retour en argent en rendement avec de l'ETH et tout. Donc continuez à mettre les paliers, surtout garder ça, c'est le plus important. Et la dernière chose, je dirais, j'aimerais bien voir des pubs télé de Sorar, notamment sur les grandes chaînes francophones, sur TF1 ou chez nous en Belgique, sur RTL, sur la 1, sur la 2, lors des mi-temps des matchs, avant match, après match, un peu comme on a avec les paris sportifs, les marques de bière par exemple. On a des marques, quand on regarde la Ligue des Champions, il y a toujours cette sans la citer, cette marque célèbre de bière qui est là. J'aimerais bien voir une petite pub de Sorar, ça peut être vachement intéressant pour attirer plus de monde et essayer de se faire connaître comme FIFA est connu, comme le jeu de foot est connu qui maintenant se passe à EA Sport FC, mais comme le c'est connu, je pense que ça pourrait être vraiment bien. Et pour ça, j'aimerais vraiment bien voir des pubs Sorar, parce que à chaque fois que je parle de Sorar à quelqu'un, il connaît pas Sorar, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus.
Ok, bon ben on est arrivé au bout, il y a encore quelques petites questions, quelques questions Twitter. Alors François Devieuxard, moi je le salue, c'est lui qui m'avait invité un jour à un match en VIP à Charleroi.
Il m'avait dit.
Bon, il te pose pas de questions, mais il te dit est-ce qu'il peut arrêter d'enchérir sur les joueurs super rares du Sporting de Charleroi. Merci. Donc voilà,
j'ai
on peut passer le message au cas où tu l'avais pas vu.
Ouais, j'ai eu ce que je voulais. D'ailleurs, si une fois tu veux qu'on aille voir un match ensemble en VIP à Charleroi, ça serait grand plaisir, parce qu'Unibet est le sponsor principal de Charleroi, donc j'ai les places en VIP et que le repas est tout compris, donc ça serait grand plaisir.
Bah écoute, je te dis oui directement. Voilà, le
ça
scoop,
serait grand plaisir.
Et t'as vu que j'ai gagné aussi la fameuse tombola.
Ah ouais, ton maillot
basket
aussi,
ouais, mais j'ai gagné deux places aussi, donc deux places. C'est pour beau, la ça. Saison prochaine de Charleroi.
Ah, bah bien.
Parce que ça se jouait, c'était le tournoi en fait des Spirou de Charleroi.
Ouais.
Spirou Proximus, ouais, ouais. Maintenant je sais plus, enfin soit, bref. Et donc il y avait deux places à gagner dans le lot et je peux choisir le match. Donc c'est sympa, ouais, je vais prendre un petit
Tu sais que tu vas prendre un Charleroi Standard, quoi.
Ouais, Anderlecht. Toi t'es supporter du Standard?
Moi ouais, je suis abonné au Standard, mais Charleroi Standard, il y a une
c'est pour ça que j'entendais souvent le Standard. Ouais, moi de cœur, enfin de toujours, ça a toujours été Anderlecht, mais bon, je suis bruxellois, donc Union, c'est très bien aussi. Et RWDM, ça pourrait le faire aussi.
C'est les ennemis, attention.
Ouais, je sais bien, je suis pas hardcore, mais en tout cas, au niveau ambiance, il n'y a pas photo, je m'éclate beaucoup plus à l'Union.
Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir des matchs de l'Union cette saison là-bas. C'est sympa,
exceptionnel, vraiment, c'est exceptionnel l'ambiance, il faut y être pour comprendre ce que c'est. Et donc, ouais, et puis les maillots aussi, ouais. Trésor,
ça ouais, c'était. C'est Trésor, juste... par contre, magique. Hein.
Ah, ça, c'est hallucinant.
Ah, ouais, ça, c'est magique.
Ils vont trésor, chercher ouais. le truc, puis. Et la personne qui me l'a apporté en plus, dans le truc derrière, elle a été chercher. Ah, monsieur, voilà, c'est un des seuls lots football. Voilà. Mais désolé, tu vois. Puis je vois l'avant, tu vois. Et je dis, mais c'est le maillot de Willem II, ça. Moi, je dis, ils sont en deuxième division, c'est quoi ce truc? Puis elle se retourne. Puis je vois Trésor. Moi, je dis, quoi? C'est vraiment sa signature? Ah, oui, parce que on demande, on contacte des joueurs d'origine africaine parce que c'est pour une association qui s'appelle ouais. Play for Africa.
Okay.
Et donc ils avaient des maillots de basket surtout, mais de foot également. Et j'ai gagné les deux. Donc il y a Boya là qui était à Saint-Tron.
Qui était à Saint-Tron, la Franck Boya.
Et donc j'ai gagné celui quand il jouait encore à l'Antwerp pour les 100 ans. Et puis quand j'ai amené Trésor, j'ai retourné. J'ai dit non, mais c'est pas possible.
C'est incroyable, c'est la sacrée.
Elle me voit, ah, vous connaissez? J'ai dit, ah oui.
Et mon fils, un petit peu.
Ah ouais, et mon fils à 12 ans, qui participait au tournoi, il regarde aussi les matchs avec moi et tout, donc il connaît bien Sora. Ah, il cool. dit papa, c'est Trésor. Ouais, bref, c'est assez fou, mais donc
cool.
avec plaisir pour aller voir un match de foot avec toi. Alors, prochaine question. Neynim, Emilien, qui était mon dernier invité, donc il dit j'ai plusieurs questions. Quentin performe avec des stacks très régulièrement. Peut-il nous expliquer les avantages et comment sélectionne-t-il les bons stacks?
Ouais, alors merci pour ta question, Nelim. D'ailleurs, très bon contenu sur la MLS. J'ai écouté le podcast, très très intéressant. Déjà, bien choisir à l'avance. Donc, si tu choisis un stack, le mieux, c'est de prendre un stack, bien entendu, Benfica, Ajax, Zenit. Pourquoi? Parce que c'est un stack où ils sont largement dominateurs dans leur pays et ils jouent contre des très très petites équipes. Je t'avoue qu'en Asia, en K-League, en LMLS ou même en Argentine, c'est déjà, même au Brésil, c'est beaucoup plus compliqué à trouver un stack. Donc, c'est vachement plus facile l'Europe. Après, il faut déjà une équipe avec un bon GK, un bon def, un bon mid, un bon attaquant et un bon sub en scoring rare, je parle. Plus, et s'il y a des autres joueurs en plus, c'est encore mieux comme ça. Tu as des rotations et des backups, notamment par exemple pour une cape 270. Si tu as un joueur 15 un peu plus faible, mais que tu sais qu'il y a un bon scoring rare et tout, comme notamment je l'ai fait, que j'avais tapé dans les hauts du classement, notamment avec Bruges ou avec le Bayern Munich, mais ça permet ça aussi. Et j'utilise énormément les data pour l'aligner. Donc, petit tips, il me faut une équipe où le gardien, si par exemple le gardien, pour moi, selon mes calculs et mes données, minimum 40% de proba de clean sheet et que le secteur offensif a minimum 1,7 goal attendu, là le stack là tu peux l'aligner parce que tu sais que normalement ton gardien il va faire le clean sheet qui a une ball proba, ton défenseur fasse un bon score et que tes milieux, que tes attaquants soient décisifs, voire peut-être même ton défenseur être décisif, tu vois. Donc c'est tout ça pour essayer de trouver un bon stack, mais c'est plus facile sur l'Europe que sur mais j'en ai tenté ici, j'ai notamment le stack d'ailleurs je suis numéro 1 en collection 2023, j'ai regardé tout à l'heure sur Sorare pour Vissel Kobe, j'adore cette équipe au Japon. Et justement là il y a Maekawa qui est bon au goal, on a Asuse, Sakai qui sont bons en défense. Le seul petit bémol va être le milieu de terrain, mais t'as un Yuroki qui joue attaquant gauche, donc qui peut te sortir un DS, et t'as un Osako et un Muto qui jouent en attaque, qui sont bons, tu vois. Donc ça, c'est l'avantage de ça. Sinon, je dirais, pour par exemple en MLS, t'as un Seattle où là t'as Frey, mais c'est un peu plus compliqué les clean sheets en MLS. T'as un Yemar, un Nuutolo, un Ragun en défense, t'as un Lodero en milieu de terrain et t'as un Maurice en attaque, tu vois.
Et alors, sa deuxième question, c'est par rapport à ton boulot, quel impact les codes de betting ont dans tes choix de match-up? On en a parlé tout à l'heure, donc tu utilises d'autres stats et tu as cité les deux sites entre autres que tu utilises.
J'aurais pas forcément la cote parce que tu vois, une cote, on peut avoir une cote de 1,30 du Real Madrid qui joue à Osasuna. On se dit, je vais tenter le Real Madrid, il a une cote de 1,30, mais quand on regarde le goal attendu, en fait, Osasuna à domicile encaisse très très peu de goals, alors le Real Madrid aura un goal attendu à moins de 1,5, donc ça se trouve, ton Benzema il marquera pas, tu vois. Ça aurait été le cas cette saison où, comme ça, un instant, j'aurais vu la cote, j'aurais pu tenter Benzema. Au final, il a tapé 34-37 de score parce qu'il a pas marqué et jouait contre une équipe qui était fort défensive, tu vois. Donc la cote, pas toujours, c'est comme au Paris Sportif, tu vois.
Alors, question de Stéphane Ledan. Est-ce que tes relations via ton boulot chez Unibet te permettent de flairer des bons coups avant les annonces?
Clairement, quand ça même, permet de je suis en tournage ou quoi. Imagine, par exemple, le coup de Bernier en SR, j'en ai parlé avec Bayat quand je suis avec des collègues journalistes sportifs ou quoi, et que je leur dis, tiens, d'ailleurs, j'ai ce joueur-là, j'ai envie de lâcher sur Sorare. Tu sais, me dire un peu les infos mercato qu'il y a sur lui, comment est sa situation au club, ou alors lui, pourquoi il a pas joué. Tu sais, me dire, il me dira, c'est parce qu'il a fait ça à l'entraînement, ou il s'est pris la tête avec la direction, ou il a un problème de contrat. ils vont me dire des trucs que des fois des trucs en off qu'on sait que les gens ne savent pas. Par exemple, se dire, punaise, pourquoi lui il est DNP? Ben, maintenant, et c'est l'avantage aussi que je veux aller en Pro League, c'est que si j'ai une question sur un joueur, clairement, je vais la poser, je trouverai la réponse à ma question, tu vois. Alors que si j'ai un DNP en Amérique ou au Japon, je vais pas savoir avoir la réponse. Ouais, voilà. Donc, ouais, clairement, c'est vrai que ça peut m'aider. Et encore, la différence, c'est qu'avant, quand j'étais sur FIFA, ben, j'étais pas mal pote avec des joueurs qui étaient en Pro League, donc ils jouaient, tu vois. Donc là, ben, j'aurais eu les infos du club, j'aurais eu les infos du vestiaire, j'aurais eu leur carte rare, ils m'ont renvoyé leur carte signée, comme j'ai vu qu'il y en a qui ont leur carte signée, qui l'envoient à des autres gens et tout. J'aurais eu ça, tu vois, mais maintenant, ils sont plus en Belgique ou autre, donc.
C'est plus difficile.
C'est plus difficile. Mais si j'avais été dans ce rare à ce moment-là, waouh, ça aurait été un délire. Parce qu'eux, ils jouent tous à FIFA, donc.
Moi, à un moment, je l'annonce ici, j'avais un contact avec un joueur de Charleroi.
Ah ouais. Ouais, c'est pas mal ça.
Parce que je l'aidais, je le coachais dans le jeu, dans Sorare, tu vois.
Allez, incroyable. Tu me diras en off qui c'était.
Alors j'avais de temps en temps des belles infos, tu vois.
Ah ouais, clairement, mais ça aide, y a rien à faire.
Ouais, franchement, j'avoue que ça existait. Mais ça n'a pas servi à grand chose, parce que parfois il se trompait aussi. Il me dit, ouais, ça va être ça. Et puis il y a le coach qui sort un truc, et puis il me dit, ouais, non, mais finalement, c'était ça. Il dit, ouais, mais bon, là, la deadline, elle est passée, quoi.
Ouais,
c'est mort. Question de Pierre Wagui. Avec 25% des matchs en play-off, la JPL ne serait-elle pas la pire compétition pour jouer à Sorare? Bon, non. Hein.
Non, mais moi, je suis d'accord avec lui. Si tu veux viser le top 10 en All-Star, par exemple, ou en Challenger, clairement, tu ne vas pas savoir concurrencer des Celtics, des Benfica, des Zenith, clairement. Mais par contre, si tu veux jouer une cape 240, justement, pour moi, je trouve que c'est vraiment bien parce que c'est même pour les Français, hein, c'est un championnat où ils peuvent avoir pas mal d'infos. Notamment, ils peuvent me poser des questions sur Twitter, ils peuvent voir des journalistes sur Twitter, ils ont les infos proches. Et donc, pour une cape 240, pour avoir un rendement au niveau financier avec les paliers, je pense que c'est vachement intéressant, sachant qu'il y a aussi plus de matchs. Donc, mais clairement, pour viser les tops, vers descend tous les week-ends et tous les joueurs, ça non, c'est plus dur.
Bon, bah écoute, voilà, t'as dévoilé toutes tes recettes. Ouais, merci. Exactement. On arrive à la fin, Quentin. Merci beaucoup pour ton intervention, pour ce moment-là. C'était vraiment très qualitatif, je trouve. Et suis certain que ça va intéresser énormément de personnes. Et on sent vraiment la passion qui transpire dans tous tes dires. C'était vraiment chouette.
Merci à toi, surtout, Mehdi. Et moi, je tenais aussi à le dire, sûrement au nom de tout le monde et toute la communauté francophone. C'est parce que je le dis ici, parce que j'ai toujours dit, toujours pensé. J'écoute toujours les podcasts. Et merci à toi de mettre les podcasts comme ça, parce que ça fait déjà d'avoir du Sorare quand on est dans sa voiture, quand on est dans le train pour aller à une émission Unibet, quand j'arrive du boulot, que je suis dans la voiture, je mets mes écouteurs, je me cale l'émission et claque, j'écoute ça. Et c'est toujours un kiff d'entendre une autre vision et une autre vue des autres managers, et même des fois d'avoir des petits tips, des petits conseils, ou des fois des petits changements de stratégie ou quoi. Donc c'est vachement cool. Et donc force à toi pour continuer là-dedans.
Bah écoute, merci à toi, et force aussi à toi, parce que t'es aussi très prolifique au niveau des contenus que tu crées. Et j'espère qu'un jour, bientôt on pourra se voir et assister à un match à Charleroi.
Avec plaisir.
Salut, à bientôt.
Salut, hein, ciao, ciao.
Encore merci à Quentin et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast afin de lui donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com.
Mediasorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare.